Bah oui, elle prend mieux y'a que ça, le second ça existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 226 et de l'autre côté de la France, de l'autre côté de la radio, de l'autre côté de la radio, l'autre côté du micro.
De la radio.
il consulte les radios, c'est le docteur en chef du Q-Conti de la Haute-Savoie, monsieur Stéphane Boulet.
C'est moi-même, effectivement. J'ai, le pire, c'est que j'ai fait des études de métier il n'y a pas longtemps, mais j'en ai fait.
Avant de te dire, les jeux vidéo, ça va plus gagner.
Oui, c'est ça, très bon calcul.
Je crois qu'en 2025, ça va être l'apogée. Il faut y aller maintenant.
Oh, là, maintenant, effectivement, c'est vraiment un secteur porteur. C'est vraiment le journalisme de jeux vidéo. Je pense que si vous en mettez plein les fouilles, c'est le moment où j'appelle.
Ouais, c'est le moment. Et ce qui nous amène à pas du tout faire ça aujourd'hui, mais à classer la liste ultime du cinéma. Stéphane.
Oui, Daniel.
Pour nous faire parvenir des listes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, pour nous faire parvenir des listes, déjà, il faut avoir une liste. Et cette liste, donc c'est 3 films par liste, trouver une petite thématique rigolote, un titre rigolo qui puisse accrocher un peu l'œil de Daniel, puisque c'est lui qui va faire la sélection. Puis après, une fois que vous avez trouvé votre inspiration, vous envoyez ça à supercinébattle@gmail.com. Et si par chance votre liste est sélectionnée, elle est passée, on en discute, et puis on classe dans le marbre définitivement les films du meilleur au pire. Voilà. Et à nouveau, c'est vraiment quelque chose qui peut faire foi, hein, littéralement, en cas de litige sur la qualité d'un film, suffit de ressortir la liste du marbre et vous savez lequel est le meilleur.
Les gens en ce moment ressortent leur liste, font leur top 10 des 5 premières années des années 2020.
Ouais, parce qu'on est en plein milieu, effectivement, juin 2025, voilà, on y est quoi.
Et tu sais quoi, ça veut dire qu'on est plus très loin pour classer des super films.
C'est ça, c'est ce que je me dis, c'est qu'en fait, du coup, c'est que l'échéance que nous voulons toujours repousser s'approche à grands pas.
Mais tu sais que le pire, c'est que Dieu ou peu importe qu'est-ce qui te donne, le fromage, qui te donne la force d'aller jusque-là,
oui.
De finir cette décennie, qu'on compte bien aller jusqu'au bout et de classer les années 2020. Mais tu sais quoi, je me dis, c'est les années records du cinéma. Je regarde plus de 120 films, parfois 150 films par an.
Eh oui.
Donc ça veut dire que genre la masse, et encore on peut pas tout voir, mais la masse de films sur les années 2020, on va s'éclater quand même. Hein.
Bah oui, bizarrement effectivement, j'ai l'impression d'avoir vu plus de films là que dans la décennie précédente.
Et tu sais quoi, quiz impromptu, ton Marvel préféré depuis 2020?
est-ce que Eternal c'était après 2020?
Oui.
Bon bah voilà, mais alors vraiment la question piège là, alors là, waouh, c'est tricky, c'est piégeux quoi.
Ouais, alors que ton Zack Snyder préféré de 2020, c'est compliqué quoi.
Oui, ça c'est sûr.
Il en a fait 2 en plus. Hein.
Oui, c'est 4 en fait, si on compte les versions longues.
Non mais après il y a le truc des zombies, il l'a fait en 2020, il l'a fait en 2020 passé je crois.
Bien sûr, il a fait ça, oui.
Ouais, c'était pas bien ça.
Non, du tout.
C'était pas ouf.
C'était pas ouf, c'est ça.
Alors, ce monsieur qui parle, c'est Stéphane Boulet.
C'est ça, c'est moi-même, oui.
Moi, je suis Daniel Rêve, et nous vous remercions collégialement, et je le dis maintenant au début, nous soutenir sur patreon.com/RPU.
Voilà.
Et je tiens à dire que quelqu'un, tu devines la personne, a donné les sous pour pas faire passer sa liste. Voilà, il s'est dit, je veux fêter ça. Le seul problème, c'est que j'avais déjà mon itinéraire tout fait.
Et il est arrivé, il a foutu la merde.
Non, mais du coup, on prendra sa liste la fois prochaine.
Très bien.
Mais elle est dans le pipeline.
Elle est au chaud.
Manu Diesel, ne t'inquiète pas.
toujours dans les bons coups, de toute façon, Manu Diesel.
Toujours dans les bons coups.
Exactement.
Stéphane,
oui,
on a classé très très peu de films la dernière fois.
C'est vrai.
Est-ce que tu te souviens de quel film il s'agit?
Alors, je me souviens que on a classé Rogue One, puisque dans mon souvenir, on a classé le film. Entre-temps, j'ai fini Andor, et après, l'épisode est sorti. Donc voilà, c'était...
Et alors, qu'est-ce quoi par rapport à Andor? Ça se regarde, les deux se regardent.
Moi je trouve ça super quoi. Je trouve ça vraiment super. Il y a certains épisodes de la saison 2 qui sont assez fabuleux. Je crois même quelque part que Star Wars ne méritait pas finalement d'avoir des trucs aussi bien, tu vois.
Est-ce que tu voudrais porter maintenant ta casquette que tu mérites, Make Star Wars Great Again?
C'est ça exactement. Ouais.
On a notre fil de discussion avec Benji et on se moque beaucoup des gens qui utilisent le logo Make Great Again, parce qu'ils l'utilisent comme si c'était une parodie, mais en fait, c'est très très malaisant à chaque fois.
Bah, surtout que là, voilà, on parle, effectivement, il y a eu la Summer Game Fest, alors je sais plus le nom du truc de Geoff, là, le truc de merde, où effectivement, il y a un type qui est venu avec une casquette Make FPS Great Again, c'est-à-dire que vraiment, on reprenait tous les codes qu'il fallait pas pour faire ça, et c'est vrai que c'était très très malaisant, surtout
en plus
que...
le FPS en particulier, un genre c'est très gun quoi.
C'est ça, c'est que non seulement déjà Make FPS Great Again, c'est-à-dire que c'est un genre qui quand même vend des exemplaires de jeux par camion entier, donc à un moment donné, je vois pas trop où est-ce qu'il faut le Make Great Again,
tu sais quoi,
ça n'a aucun sens.
En plus les jeux vidéo, c'est comme les films, c'est par cycle.
Oui.
C'est-à-dire que ça reviendra les gars, faut pas...
Oui. Puis même là
si t'es pas content, ça reviendra.
Mais même là, ça se vend. Enfin voilà, je vois pas où est le truc. Et puis effectivement, le FPS qui est quand même un genre qui est quand même assez, bah, par nature porté sur les armes à feu. Voilà, associé au message d'un dictateur en puissance. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être plus malin à faire.
Et j'ai vu que tu as posté sur Blue Sky, puisque tu es présent sur Blue Sky.
C'est ça.
Tu as posté ta liste de tes films préférés des années 2020 à mi-parcours.
C'est ça.
Je peux dire qu'il y en a, malheureusement, il y en a un qui va aller très très bas dans le classement quand on le fera.
Ah, bah c'est dommage pour la zone d'intérêt, du coup, toi qui aime pas les films qu'on dit du mal des nazis.
Ah non, mais zone d'intérêt est assez haut chez moi. Mais par contre, écoute, je peux pas encore dire du mal de Limbo, mais... Après, on a en commun. On a The First Slam Dunk, Zone of Interest. Et aussi, toi et moi, on a une passion pour Nope, hein, visiblement.
Oui, tout à fait. Et je l'ai revu, en plus.
Ah ouais, j'aimerais bien le revoir, mais au cinéma, moi.
Je l'ai revu avec ma fille, dernièrement. Et...
Ça lui a plu, ces histoires de frères et de sœurs? Ça a dû la toucher, quand même, puisque, disclosure, elle a un frère.
Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, ça lui a énormément plu. En fait, la blague, c'est que depuis, elle s'est créée un compte Sens Critique. Donc du coup, je peux épier les trucs qu'elle écoute, qu'elle regarde. Etc.
Ah, tu mets des pouces sur ce qu'elle, genre si son avis est bon.
Du coup, bah non. Sinon après, je fais des réflexions. Comment ça, seulement 7 à machin truc.
Comment ça, seulement 5 à Dirty Dozen.
Donc voilà, donc c'était rigolo. Non mais voilà, effectivement, Nope, c'est un film à chaque fois que je le revois, je l'aime toujours un peu plus quoi. Il ne fait que grimper dans mon classement.
Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/rpu. Première chose, deuxième chose, double excuse. D'abord ma voix est moins puissante qu'avant. Là, on est en période de pollen. Je suis en apnée, donc je vais choisir des films et je vais mettre le jukebox Stéphane. Non, pas du tout ça, pas du tout. C'est passé comme ça. Et deuxième excuse, on a fait des reviews, on a commencé par des reviews récents, de films récents la dernière fois, ce qui fait qu'on a fait que deux films en fait finalement. Mais du coup, on y allait sans spoiler. Alors, je sais plus de quel film on a parlé.
Ouais, a priori, c'était sur Balles Perdues 3.
Ah, c'est Balles Perdues. Oui, mais on venait de le voir, on était tout excités comme des...
Surtout que j'ai pas réécouté l'épisode parce que j'ai une particularité, c'est que je n'écoute pas les podcasts dans lesquels je suis.
Moi, je les monte, alors je suis obligé.
Et je n'écoute pas les podcasts des autres non plus. Donc, en fait, j'écoute pas de podcasts.
t'es un homme de radio, c'est rare, hein, mais
ouais,
tu écoutes la radio.
Exactement, j'écoute la radio par contre. Mais par contre, je pense que le spoiler. Enfin, je pense savoir de quel spoiler il s'agit. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un spoiler qui est sur l'affiche du film aussi. Donc, voilà. Je sais pas trop comment me situer par rapport à ça. Donc, mais bon, désolé s'il y a eu ça. Mais sur le coup, effectivement, ça faisait partie des éléments visuels du film quand tu le mettais sur Netflix. Donc, sur le coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça nous a échappé, quoi.
Et puis tu sais quoi, et le reste on va en parler aussi des trucs, je sais pas pourquoi, je sens que l'actu va revenir, mais on fera très attention, voilà, on fera attention, surtout toi.
Surtout moi, exactement.
Surtout toi. Et bah Stéphane, avant de commencer,
oui.
il convient de dire les 10 premiers.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc du coup, eh ben écoute, depuis l'épisode 154, The Strangers, qui est en première position. Voilà, suivi de Parasite, donc on a quand même un bon top 2 coréen pour les années 2010. En dessous, on a Social Network et El Reino. Ensuite, on a Premier Contact, on a Whiplash, on a The Raid. Voilà, premier film de baston de la liste. Interstellar, Drive et It Follows qui terminent ce top 10.
C'est marrant parce que j'ai revu un bout de Whiplash. À chaque fois, je revois parfois Whiplash par bout et c'est vraiment assez fascinant de voir comment le. Enfin, c'est vraiment un super film, en fait.
Ouais, vraiment un super film, effectivement.
Sur l'autoritarisme chez le corps enseignant, évidemment. Tu t'y retrouves.
C'est pour ça que c'est bien. Exactement, c'est pour
ça. On a 175 films dans notre liste, mais oui. Ça veut dire que 165e, il y a Fiston.
Oui.
166e, il y a Expendables 2.
C'est
où
ça.
Où sont les autres? Nous allons bien voir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est 167e? Suicide Squad, le premier film.
Oui, voilà, celui sans le The. Voilà.
Tu sais que j'ai vu un David ailleurs. Oh putain, faut pas que je me lance, mais il y a un nouvel David.
Le Working Man.
Working Man.
Ah, c'est atroce.
Et alors, puisque t'écoutes pas de podcast,
oui, non.
Je vais te faire cette anecdote que j'ai fait dans After Eight.
Ah, voilà,
mais la première personne qui parle dans Working Man... Le premier personnage qui apparaît dans le film, c'est un ami d'enfance.
C'est vrai.
C'est un ami d'enfance, il est devenu comédien, il fait carrière principalement en Espagne, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre. Il est très bon en langue, hein, faut croire, et il est très très beau, accessoirement. C'est avec lui qu'on grugeait, enfin pas qu'on grugeait, mais tu sais, moi j'avais une Master System parce que moi je suis la classe populaire. Lui, il avait une NES parce que c'était un bourge. Et lui, il avait trouvé le truc, c'est qu'on allait à la Fnac et il disait « Oh, ce jeu, il me plaît pas » ou je sais pas quoi. Et du coup, il changeait son jeu. Et à la Fnac, tu sais, il y avait pas suffisamment de gens qui faisaient les marioles à l'époque. Ils étaient très tolérants avec ça, quoi. Tu pouvais revenir et dire « J'aime pas mon jeu ». Et du coup, il a changé son Castlevania en Goonies 2. Quelle terrible erreur, quand même.
Quelle monumentale erreur.
Mais bref, donc voilà, c'est... Et il porte le même prénom que moi, tu peux pas tromper. Donc voilà, donc c'est pour ça que le film est transcendé pour moi. Je ne peux pas l'inclure dans les blockbusters de l'année, je suis désolé.
Oui, c'est ça, tu n'es pas impartial.
Voilà. 169, la bras ouvert, 170, la naissance d'un... 300, la naissance d'un empire, 171, Pixel.
Oui.
Et pas Pixar, comme mon fils est en train de découvrir tous les Pixar. J'y reviendrai après dans les recos. 174, Die Hard, Belle Journée pour Mourir, c'est le cinquième.
C'est vrai.
Avec quel comédien?
Attends, c'est lequel? Non, c'est Jay Courtney qui est dedans.
C'est Jay Courtney.
Putain, j'ai réussi, cette fois-ci je l'ai eu.
Et 175e, Si j'étais un... Mais tu sais que régulièrement les gens nous envoient des listes Jay Courtney.
Ah bah j'imagine.
Sam,
ouais.
Worthington, et tu serais perdu. Tu
ah sais, bah c'est clair.
Il a joué là-dedans et tout ça.
Mais ma question, c'est que je me pose... J'angoisse maintenant parce que je me dis, est-ce qu'il y a un film où ils ont joué tous les deux ensemble et j'en suis pas aperçu.
Tu sais que j'ai vu un bon film de Jay Courtney à Cannes.
Oui, il paraît avec un requin en plus.
Avec un requin. Il joue le méchant, donc c'est super. Écoute, on va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue et sous aussi, il y aura des films, les gars. Accrochez-vous. C'est une liste de Tristan Groot, un classique, un fidèle de l'émission.
Merci Tristan pour ta liste.
Nous a envoyé cette liste il y a 12 jours. Tu sais, d'habitude, je remonte hein, en 2020. Et là, je me suis dit, je prends il y a 12 jours. Et sa liste s'appelle « Fait comme l'oiseau ».
D'accord.
Et c'est que des films à thématique de cuicui. T'es prêt?
Ah, d'accord. Je croyais qu'il reprenait les paroles de la chanson.
Ah bah non, quand même pas.
Donc du coup, je cherchais quelqu'un qui vivait d'air pur et d'eau fraîche, et quelqu'un que jamais rien ne l'empêche, voilà. Mais en fait, c'est pas ça.
Alors, je l'ai pas... C'est Michel Fugain, c'est ça?
C'est ça, exactement.
T'as vu? Oh, fou, tu sais, dès que c'est des paroles un peu niaises et tout, je me dis, c'est Michel Fugain, c'est sûr.
Ah bah oui, on peut pas citer du Sardou à chaque fois pour te faire plaisir, ça, d'accord?
Oui, mais... ou alors... mais je dis ça, mais même Téléphone, t'as déjà lu les paroles de Téléphone?
Ah bah, c'est un peu téléphoné, effectivement.
Bon là, on s'est mis des ados déjà, les fans de téléphone. Et Michel... ouais, non, alors, mais j'aime bien... je retire ce que j'ai dit, j'adore Michel Fugain.
Pas téléphone. 2025, ouais, en 2025, on risque pas grand-chose à se mettre les fans de Michel Fugain et téléphone ados.
Non,
voilà,
ça
je
va.
Crois que l'enjeu est pas énorme.
Ça va, alors que si tu dis du mal de Mario Kart ou de la Switch 2, ça c'est tout.
Ou de Jul, voilà, là on est mort. Quoi.
De Jul. Le premier film de sa liste, c'est Lady Bird de Greta Gerwig.
Eh bien, je ne l'ai pas vu.
Ah putain, déjà, premier ouais. rattrapage de...
Il est sur ma liste des films à voir depuis sa sortie, en fait. Et je ne l'ai toujours pas vu.
Et ben, maintenant que Greta Gerwig a fait des blockbusters...
Oui, voilà, maintenant je pourrais m'y intéresser. Oui, c'est avec Saoirse Ronan et Timothée Chalamet, mais voilà, je vois l'affiche, mais je ne l'ai pas vu.
Alors, c'est Saoirse.
Saoirse, ok.
Et je me suis entraîné à le dire parce que je voulais pas écorcher son nom. Puisqu'on va la revoir assez souvent maintenant.
Assez souvent. Parce que j'avais vu une vidéo d'elle, je sais plus, dans quel late show, où justement
avec Greta Gerwig. Elle était avec Greta Gerwig, justement.
Voilà, et puis du coup, elle essaie de passer en revue les façons les plus atroces de prononcer son prénom.
Alors, moi, je l'ai vu. Et tu sais quoi, il faut que je te dise un truc. Bon, enfin, tu t'en doutes, tu sais de quoi il s'agit. C'est un coming-to-age movie. Et faut que je te dise un truc, je le dis souvent à Amandine, mais je le dis pas à toi ni à nos auditeurs, mais en fait j'adore les films où il y a des trucs qui explosent, où il y a des galaxies qui éclatent, où il y a des mecs qui donnent des coups de pied. Mais mon style de film préféré, c'est coming to age, c'est quand tu as un adolescent qui a 17 ans et personne ne l'aime et personne ne le comprend et toute la vie c'est un drame et tout. Et moi j'adore ça, j'adore ce moment de la vie où genre, et là c'est tellement ça, elle a 17 ans et tout, elle s'entend pas avec sa rhum et tout, c'est vraiment, ouais, enfin bref j'adore ce genre de cinéma et je pense que Lady Bird tu vas bien aimer.
Mais écoute, ouais, non, mais comme je te disais, il est sur ma liste depuis une éternité, donc faut que je trouve le moment de le voir.
Alors le deuxième film il est marqué en tout cas dans les devoirs de vacances. Le deuxième film de sa liste, c'est un film qui s'appelle The Big Year en anglais, mais qui s'appelle Drôle d'oiseau en français.
Alors, et je crois que j'ai pas vu non plus, ça me dit rien. The Big Year,
c'est une comédie. Okay. Est-ce que c'est une comédie ou avec Steve Martin, Jack Black et Owen Wilson?
Oh, alors je ne l'ai pas vu du tout.
Et alors pas grave, moi non plus.
D'accord, ok.
Enfin, je...
Et tu dis que ça s'appelle comment en français?
Drôle d'oiseau.
Drôle d'oiseau, d'accord.
Hop là, ça j'ai pas vu du tout.
Steve Martin, ouais. Et Jack Black, ouais, bon. Je suis pas archi fan de Steve Martin, donc c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas jeté dessus, quoi.
Mais c'est peut-être pas son film le plus, tu sais, celui que tu identifies comme Steve Martin, tu vois.
Oui, c'est possible, ouais. Ouais.
Et alors le dernier film, tu l'as vu?
Garantie sur facture.
Ah, sur facture.
Sur facture.
C'est un film de super-héros.
Ah bon, ok. Birdman.
Ouais. Eh ouais, bravo, bien, ouais.
Du coup,
c'est Birdman de Alejandro González Iñárritu.
Inaritu, exactement, donc avec comment s'appelle, Michael Keaton, Edward Norton,
Emma Stone,
voilà, et il y a aussi le mec de The Hangover, non, c'est pas The Hangover, si, c'est ça qui
c'est, comment il s'appelle déjà,
Zach, je sais plus quoi,
Zach Galifianakis,
voilà, exactement, donc oui, je l'ai vu,
et Naomi Watts.
Je l'ai vu, effectivement.
Alors, c'est l'histoire... Bon, vous l'avez sans doute tous vu, mais c'est l'histoire d'un comédien, mais qui est un comédien qui a joué un rôle de super-héros. Et il a été ringardisé par le temps, mais lui, il est encore complètement habité par son personnage.
C'est ça, et sa carrière a du mal à rebondir un peu au-delà de ce rôle de super-héros.
Et évidemment, il faut voir. Évidemment, c'est un film à énormément de lectures. On va voir si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est autre chose. Mais c'est un film où la lecture est évidente, c'est Michael Keaton était Batman.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que le choix de Michael Keaton pour incarner ce personnage, donc dont le personnage phare auquel on le renvoie sans arrêt est Birdman, évidemment, ça renvoie à Michael Keaton et son rôle de Batman. Il a été le premier Batman moderne, donc post-années 60, au cinéma, dans les films de Burton, et voilà, il a été longtemps associé à ce personnage-là, et du coup, si on en lit à travers le film, parce que je pense que dans l'écriture, Michael Keaton a participé, ou en tout cas a été consulté, voilà, il en a un petit peu souffert malgré tout.
Du fait d'avoir été Batman ?
Bah, en tout cas, du fait d'avoir été finalement trop souvent renvoyé à Batman.
Mais en même temps, c'est son grand acte en fait, d'acting, en fait.
Bah, c'est son, et jusqu'à son rôle le plus populaire, quoi.
Jusqu'à ce qu'il... Non, il y a Beetlejuice aussi, mais...
Oui, mais c'était avant, non? Ouais. Ah non, c'était peut-être après, je sais plus.
Non, Beetlejuice, c'était avant, je crois.
Bon, c'était mais, à peu près les mêmes années, de toute façon.
Mais, ce que je veux dire, c'est qu'après... Tu sais, c'est comme toutes ces stars... Toutes ces vieilles stars qui tout d'un coup se deviennent cool, tu vois, comme par exemple.
Van Damme.
Non, mais je pensais plus au. Par exemple, Bill Murray, tu vois.
Mais Bill Murray, c'est un peu différent parce que Bill Murray, il a su choper un registre nouveau. Alors, tardivement, mais du coup, il a réussi à avoir un véritable deuxième carrière dans ce registre-là, en fait, le registre comique dépressif amorcé avec le film de Sofia Coppola, avec Lost in Translation, en fait. Et après, avec ses collaborations avec Wes Anderson.
Et Jeff Goldblum aussi.
Jeff Goldblum, c'est marrant parce que Jeff Goldblum, c'est plus Jeff Goldblum que les gens finalement ont trouvé cool et viennent voir que plus ses rôles, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est oui. Assez étrange comme en fait, en gros, quand il vient effectivement et qu'il fait, alors je sais plus quel personnage il fait chez Marvel, c'est dans les Gardiens de la Galaxie, je sais plus son nom, mais bref, quand les gens viennent juste voir Jeff Goldblum parce que il va y avoir un Jeff Goldblum show, mais en fait je crois que fait le personnage, ça c'est pas trop ce qui avait intéressé les gens à ce moment-là, à mon avis.
Je crois aussi que c'est un peu le cas. Et du coup, comment expliquer ce qui se passe dans le film? Ah oui, il faut expliquer un truc important. C'est que c'est un faux plan séquence pendant tout le film.
Oui, tout à fait.
Mais en fait, le propos du film, c'est de dire, globalement, c'est qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur la condition de vie d'artiste?
Bah, il y a un peu.
Je crois que c'est un peu. Enfin, après, on va voir. On peut pas parler de ça sans parler d'Inarritu lui-même, quoi. Mais c'est un peu le propos du film.
Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le film, le personnage joué par Michael Keaton va essayer de se relancer à travers une pièce de théâtre à Broadway. Voilà. Et en fait, il va. On est au moment où on est à quelques jours ou quelques heures. Quelques jours, parce qu'en fait, c'est un plan séquence, mais la temporalité, elle, n'est pas la temporalité du film. C'est-à-dire qu'il y a des ellipses qui se font au sein du plan séquence. Donc en fait, voilà, il y a des astuces narratives et visuelles pour avoir ces ellipses-là. Mais voilà, on est à quelques jours de la première. Et globalement, en gros, tout est sur le point de s'effondrer parce que voilà, lui, il est, comme on l'a dit, il est un peu prisonnier de sa gloire passée et de son personnage du Birdman qui va se manifester physiquement au détour de plusieurs séquences et qui va être une sorte d'alter ego un peu négatif qui va être autour de lui. Il va avoir des problèmes avec sa famille, il va avoir des problèmes avec ses co-acteurs puisque au sein de la pièce il y a un autre acteur joué par Edward Norton qui a un petit grain, on va dire, et qui va voilà être dans une relation un peu conflictuelle, voilà, donc tout ça va se mélanger et lui il va essayer de tirer les fils entre sa vie, son œuvre passée et son œuvre, enfin en tout cas son futur potentiel, il va essayer de dénouer tout ça pour essayer que tout ne se pète pas trop la gueule, quoi.
C'est exactement ça, et parfois il y a des personnages qui rentrent dans le truc. Et le plan séquence, il suit donc le personnage qui s'appelle... Alors, j'ai dû regarder, il s'appelle Regan. La caméra suit le protagoniste à travers le backstage. Mais en tout cas, Steph.
Oui.
Est-ce que t'aimes Birdman?
Alors, j'ai... Oui et non. En fait, c'est un peu toujours mon problème avec Inarritu. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sait faire et qui sait faire très bien. Il y a des idées, il y a plein de trucs, mais souvent, pas toujours, mais souvent, il y a un excès de quelque chose qui fait que au final, ça fait un peu patatras, quoi. Voilà, dans Babel, c'était l'excès de pathos, en fait, qui, à un moment donné, faisait que je n'arrivais plus à suivre le film. 21 grammes, c'était pareil.
Dans Revenant, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas classé encore.
Revenant, voilà. Revenant, j'aime bien, mais c'est pareil. Je pense que le film est...
S'il rampait un petit peu moins, il y a toujours...
c'est ça. Non, mais voilà, le film est peut-être légèrement en deçà de son plein potentiel, à mon sens, quoi.
On a classé Beautiful, je crois.
Oui, c'est possible, ouais, aussi.
Beautiful aussi, énormément de pathos, sa mort, voilà. Et tout. Il appuie sur le bouton pour faire, en se disant, ah, c'est ça qui va marcher, et je vais faire pleurer dans les chaumières.
Bon, en tout cas, enfin, bon, je suis pas je suis pas un chantre forcément de la subtilité à tout craint. Puisque voilà, suffit de voir ma liste des films des années 2020 pour voir que c'est pas forcément ce qui m'intéresse, la subtilité. Mais il y a un truc, chez Iñárritu dans sa façon de faire qui fait que il y a des fois je décroche. Et là, très clairement, le souci qui est en même temps assez logique, mais malgré tout de Birdman, c'est que petit à petit, en fait, on va substituer la problématique du personnage de Michael Keaton à la problématique du personnage de Iñárritu. En ce sens que
C'est Iñárritu qui se raconte, c'est sûr, voilà. Et certain.
En ce sens que effectivement, plus le film avance et plus effectivement, en réalité, on comprend que Iñárritu parle de lui et qu'en fait, le vrai personnage du film devient la caméra, à tel point que, j'ai un gros problème avec le plan final de Birdman.
Alors attends, est-ce que c'est parce que à tous les moments, je me disais, ce film va s'arrêter sur à la Black Swan, sur la salle qui applaudit et tu vois fondue au noir et a movie by Iñárritu, c'est ce que me disais. Et en fait non, je crois que c'est spoiler spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Birdman.
C'est ça, voilà, parce que là effectivement
il faut rentrer dans un truc spécifique. Je crois que c'est le décollage.
Alors il y a le décollage, mais du coup le truc c'est que en fait il y a le décollage du personnage, donc parce qu'effectivement il finit par embrasser son destin, etc. Voilà, mais le truc c'est que la caméra se finit bien sur scène, en fait.
C'est sur scène que
voilà. Et la caméra le film se finit bien sur scène avec le personnage donc de Michael Keaton qui donc a décollé et donc c'est quelque part extirpé de sa vie un peu bordélique, un peu problématique, etc. Mais du coup on finit sur l'image de la caméra seule sur scène. Avec le public subjugué, en fait. Tu sais, il y a un truc...
C'est ça. Mais ça applaudit à un moment.
Oui, ça applaudit. Alors, je sais plus si c'est vraiment le plan final ou si c'est vraiment c'est la dernière séquence, etc. Mais c'est vraiment quasiment à la toute fin. Et dans mon souvenir, c'est vraiment le plan final. Il y a quand même cette idée que malgré... l'élévation littérale du personnage
je crois que c'est pas totalement la dernière scène. Je crois que ça c'était je crois que c'était la scène d'avant et la vraie scène finale c'est qu'il est à l'hôpital à la fin. Et elle vient le voir et la dernière scène c'est la vision sur Emma Stone qui regarde par la fenêtre qui dit qui a l'air de dire c'est formidable.
C'est ça, parce qu'en fait, la scène à laquelle moi je pense, c'est la scène qui est juste avant, en fait, qui n'est pas l'épilogue, où en fait...
Qui sert à boucler l'arc de Birdman, en fait.
Voilà, et du coup, toujours dans le spoiler, c'est la scène où en fait, le personnage va aller tellement loin qu'il va se suicider sur scène et que le public va trouver ça fabuleux, une telle performance qu'il applaudit. Et en fait, il y a ce côté, justement, voilà, on arrive, Iñárritu tue son personnage, alors... Et c'est là où, effectivement l'épilogue rattrape le truc dans le sens où tu ne sais pas exactement s'il est véritablement mort ou pas, puisqu'il y a une espèce de doute de savoir s'il est mort ou si ce qu'on voit à l'épilogue c'est quelque chose de fantasmé ou de réel ou quoi que ce soit. Mais il y a cette idée que quand même, enfin en tout cas pas cette idée, il y a ce fait que Iñárritu va faire tout son film pour arriver à une mort à minima symbolique du personnage sur scène. Et du coup, pendant, je crois que ça dure assez longtemps, c'est une minute trente, va y avoir les gens qui vont applaudir la scène, alors que sur scène, la seule chose qui va subsister, c'est cette caméra, en fait. C'est la caméra.
Oui.
Et du coup, il y a quand même cette sensation qui ressort de Inarritu s'applaudit lui-même en fait, qui moi me dérange parce que je trouve et je vais te laisser la parole juste après, c'est que je trouve qu'à ce moment-là on voit vraiment le côté ok, j'ai sacrifié mon personnage pour dire que finalement si vous avez été mu par ce qui se passe c'est quand même grâce à moi. Et voilà, je trouve le procédé à un poil lourdingue quoi.
C'est marrant parce que on a à peu près, on arrive aux mêmes conclusions mais on n'a pas le même diagnostic. C'est que en fait pour moi tout le truc du, parce que on le met plus bactère, enfin tu vois il se lamente pendant tout le film, ensuite il fait des reproches à tous les autres personnages et tout, et en fait ce côté acariate et aigri, évidemment c'est lui hein, c'est une métaphore de lui, mais il est insupportable en fait le protagoniste de Michael Keaton, mais en même temps le film, en l'applaudissant, en lui faisant une espèce de standing ovation et tout ça, lui donne un petit côté, genre, comment dire, larger than life, et surtout, ah, il est attachant.
Il y a un peu de ça, en fait. Fin...
Et tu sais quoi, j'ai l'impression de voir un film de, j'allais dire, d'Edouard Baird, mais... Ah, chacun le sien. C'est lequel qui a été le plus condamné
je crois que c'est Nicolas Bedos.
C'est Nicolas Bedos. Oui, je crois que Edouard Baird, il a juste eu des.
Oui, il a juste eu des emmerdes.
Des emmerdes, des plaintes, mais.
Voilà, c'est ça.
Écoute. Mais et oui, voilà, et c'est la même chose. C'est. Hey, tu sais quoi, je suis un gros artiste, mais j'ai le droit d'avoir quelques défauts. C'est aussi un peu le propos de tout ce film-là. Hein.
Non, il y a un peu de ça. En fait, le truc, c'est là où moi, cet aspect-là, je peux le comprendre parce que, effectivement, tous ces personnages-là ont des particularités, etc. C'est justement là où je trouve que le film se sauve un petit peu justement par rapport à ça, c'est dans l'utilisation du personnage d'Emma Stone en fait, qui permet quand même d'ancrer, je trouve, le film dans quelque chose de s'éloigner un petit peu et de donner un peu une soupape un peu émotionnelle par rapport au personnage de Michael Keaton. Et effectivement le fait de finir l'épilogue sur elle, c'est ce qui permet peut-être un peu de relativiser, ou en tout cas de se dire que voilà, on n'est pas sur la simple image de Inarritu qui s'auto-applaudit, mais voilà, je trouve quand même le point de bascule pas toujours très très subtil, très intéressant quoi. Et c'est vrai qu'il a un côté énervant, un côté horrible. Bon, son entourage
attachant.
Ouais, attachant, son entourage est pas forcément toujours beaucoup mieux. Ouais, bon voilà quoi.
Bah écoute, on est un peu du même avis que toi. Ce qui n'a pas été le cas des Academy Awards, évidemment, mais on parle d'un film qui parle de l'acte de création, c'est-à-dire d'un comédien, metteur en scène et tout ça, mais surtout un comédien. Et qu'est-ce que c'est dur l'acte de créer ? Qu'est-ce que c'est dur d'être un artiste ? Et en général, ça marche à tous les coups aux Oscars.
Oui, généralement, c'est quelque chose qui est apprécié qui fonctionne bien aux Oscars. Voilà. Et il y a des films très bien sûrs. En fait, c'est ça le problème, c'est que je trouve que le film...
4 ans plus tôt, c'était The Artist. Littéralement, il s'appelle The Artist,
oui, le film. The Artist. Effectivement. Là, le truc, c'est que je trouve le film reste a quand même ses qualités.
Techniquement, il est quand même assez. Tu peux pas nier la performance, quoi.
Techniquement, voilà, il est intéressant, mais c'est marrant parce que je repense maintenant du coup à un film qui lui emprunte finalement beaucoup justement sur toute sa fin, mais qui s'en sort beaucoup mieux, c'est Substance en fait. Littéralement, si tu reprends le dernier acte de Substance et tu le substitues à Birdman, en fait, c'est quasiment la même chose avec le personnage qui assume de se transformer en monstre, etc. Sauf que je trouve que ce qui limite à mon sens Birdman, c'est que on reste vraiment effectivement collé au cas particulier de ah oui, cet artiste là. En l'occurrence, moi, puisque je suis Inarritu, voilà. Vraiment, il est trop génial. On devrait quand même apprendre à lui dire merci. Alors que The Substance arrive à transcender ça et livre quelque chose qui tient plus du contexte hollywoodien au sens large que du personnage à proprement parler. Enfin, il arrive à élargir son propos alors que finalement, Birdman reste toujours enfermé un peu sur lui-même, quoi. Et c'est ce qui est peut-être aussi un peu dommage.
Alors, étonnamment, il n'a pas gagné le prix du meilleur montage, parce que quand même, il y a un vrai travail. Un travail assez rigoureux, notamment avec l'utilisation de la batterie qui rythme un peu tout le truc. C'est un autre film qui parle de batterie qui a eu le meilleur montage, c'est Whiplash.
Ah oui, bah, alors logique, quand même. Le montage de Whiplash, il est ouf.
Bah oui, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui a gagné cette année-là?
Il a gagné Birdman. Meilleur film, non? Ouais, c'est ça.
Mais, ah oui, bien sûr. Il a été meilleur film. Devant quel film? Devant American Sniper de Clint Eastwood, Boyhood de Linklater, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma. Ok, d'accord, il y avait Selma. Tu te souviens qu'il y avait
non,
Selma
pas,
cette année-là?
Pas du tout, alors. Ah, pas du tout. Autant les autres, oui.
Et The Theory of Everything?
Eh ben, alors je crois que je n'ai même jamais entendu parler du. le nom ne me dit absolument rien.
C'est Eddie Redmayne qui joue le. Qui joue Stephen Hawking.
Ah ouais, j'aurais pas remis le titre du film, d'accord. Ouais. Okay, oui,
et Whiplash. Et je peux te dire que je préfère Whiplash.
Bah oui, moi aussi, oui.
Eddie Redmayne gagne sans problème le Theory of Everything, le meilleur acteur, devant Michael Keaton d'ailleurs, et Benedict Cumberbatch, Bradley Cooper, Steve Carell, dans Foxcatcher, figure-toi, il l'a loupé. Et par contre, Best Actor Supporting Role, évidemment, c'est J.K. Simmons, le deuxième Oscar de Whiplash.
Ah, J.K. Simmons.
Mais ouais, parfois tu tombes sur la mauvaise année. Et parfois, tu sais quoi, tu peux être le meilleur film que tu peux, mais il y a un truc trop puissant. Et sans doute, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'avoir un Oscar, c'est faire campagne.
Et
ils ont fait campagne. Je suis étonné que, attends, ah aussi bien sûr, j'étais en train de regarder, c'est étonnant, il n'y a pas eu la meilleure photo, si évidemment, Emmanuel Lubezki, meilleure photo,
je pense
que, tu sais, il arrive, les gens, ils font figuration, il y avait Roger Deakins cette année-là pour Unbroken, qui l'a loupé cette année-là.
Ouais, mais bon, après, voilà, là, tu vois, on est quand même dans le haut du panier du directeur photo de ces années-là. Bon, Lubezki, puis voilà, la photo de Birdman.
Tu peux pas attaquer le film sur la technique, tu peux pas.
C'est complètement irréprochable, quoi.
En sachant qu'il y a énormément de CG, hein.
Bah, bien sûr, de toute façon, c'est, enfin, pour réaliser un tel exploit technique, et justement, tu parles de la photo de Lubezki, enfin, à un moment donné, le casse-tête des transitions lumineuses, enfin, voilà, à un moment donné, évidemment qu'il y a des CG, mais finalement, c'est pas important, enfin, du moment que ça n'entrave pas finalement le film ou quoi que ce soit, enfin, c'est comme le cinématique, etc.
C'est mis au service du film.
Ouais, c'est complètement mis au service du film, donc c'est pas gênant, quoi.
Où est-ce qu'on va classer Birdman?
Où est-ce qu'on va classer Birdman? Mais bah tu vois, par rapport à Foxcatcher, justement.
Je préfère Foxcatcher.
Je savais que t'allais dire ça. Moi, je préfère Birdman, mais bon.
Je préfère Foxcatcher, mais 10 000 fois. Mais Foxcatcher, c'est de l'injustice de ce classement, mais tu le sais.
Non, pas du tout. Moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Plutôt bien. Je regarde. Bah, tu vois, moi, je préfère encore Chronicle, en fait, à Birdman.
C'est marrant, genre... Qu'est-ce qui devient le mec qui faisait Foxcatcher?
C'était qui Foxcatcher?
C'est Bennett Miller, et c'est le mec qui a fait Moneyball.
Moneyball, ouais, je sais pas du tout, ouais. Je sais pas du tout ce qu'il devient, ouais. Parce que Moneyball, bah, écoute, par contre, c'est mortel, quoi.
Bah, c'est mortel, mais c'est pas lui vraiment le grand. C'est le script, vraiment, là, qui s'est fait porter par le script.
Ah, bah complètement, mais...
Enfin,
mais
je veux pas dire qu'il a rien fait, mais voilà.
Oui, oui. Mais je sais pas ce qu'il devient, bonne question. Il a disparu après Foxcatcher, je ne sais pas.
Donc on va classer où alors?
Ah putain, je viens de voir sur Wikipédia. T'as envie de savoir la dernière ligne qu'il y a dans sa biographie?
À
Bennett Miller. En janvier 2025, il expose à la galerie Gagosian une série d'images générées par intelligence artificielle.
Ouf.
Voilà ce qui vient.
Tu sais quoi, c'est comme j'étais à Cannes et il y avait Kojima, et alors il parlait que de l'IA en disant « Ouais, mais c'est positif. » Et genre, j'étais en train de faire « Ouf. » Et j'étais en train de me dire « read the room, c'est pas le moment, les gens ils sont juste vénères là en ce moment. »
C'est peut-être pas l'endroit, ouais, effectivement. Donc voilà, tu vois, du coup, qu'est-ce qui devient après Foxcatcher? Bah, il fait des expos avec de la Genia, bon, ok.
Écoute, je préfère Chronicle aussi, je préfère Super, mais...
Je préfère Super aussi, mais au-dessus de Piranha 3D.
Et je préfère
3D.
Spectre.
Ok.
Ah, je préfère Spectre encore.
Ah, je trouve ça moins... Je préfère Birdman à Spectre, mais bon.
Et en même temps, Spectre, souvent, les moments, les pires moments... Enfin, parce qu'il y a des bons moments dans Spectre, mais il y a des pires moments.
Les pires moments sont...
Et les pires moments, on en a parlé il n'y a pas si longtemps entre toi et moi. On parlait du dernier Mission Impossible, je dis, j'ai beaucoup pensé à Spectre.
Oui, ouais.
Pour les mêmes raisons, et on a rigolé.
Complètement, ouais, on est d'accord.
Birdman. Allez, Birdman, il est 93e. Eh ben, on va remercier la liste, on va remercier Tristan Gou et sa liste.
Merci Tristan pour ta liste, hein, tout à fait.
Et alors attends, maintenant on va prendre une liste juste pour s'amuser.
Vas-y.
Juste pour s'amuser, parce que je pense que t'en as pas dedans, et il y a un devoir de vacances, tu l'as pas fait.
Ok, d'accord, très bien.
C'est envoyé par Enzo, fidèle auditeur et patriote.
Merci Enzo, fidèle auditeur et patriote.
Patron, notre patron. C'est une liste qui s'appelle « Être un animateur télé insupportable et un être humain détestable ne fait pas forcément de toi un bon acteur.
» Ok, je me crois. De qui on parle?
Tu veux que je te la relise?
Ouais, vas-y.
Réfléchis bien. Ah, mais attends, je crois qu'il y en a, un qu'on a... Attends. Si, il est dans le... Tu l'as pas vu, tu l'as toujours pas vu, mais bon, écoute, c'est pas grave. Donc, je redis « Être un animateur télé insupportable » et un humain détestable ne fait pas forcément de toi un bon acteur.
Et la liste est très très longue, et Cyril Hanouna, je crois pas qu'il ait fait de cinéma. Donc
Alors, premier film de sa liste, c'est, on l'a déjà dans la liste, c'est Le Baltringue de Cyril Seba avec Lagaffe.
Vincent Lagaffe, bah oui, tout à fait.
Voilà. Est-ce que tu veux le voir?
Je ne répondrai pas à cette question, je sans la présence de mon avocat.
un bon ami, là, en fichier, voilà, en fichier, n'ayons pas peur des mots, en fichier. parce que tu sais pourquoi? Parce que ce film-là, il disparaît des plateformes, et un jour, tous les DVD vont mourir, aura perdu toute trace du Baltringue.
Ça sera une rareté, et on courra après, effectivement, on s'arrachera pour des milliers d'euros nos exemplaires du Baltringue.
Bon, bah écoute, non, tu l'as toujours pas vu, j'en déduis.
Non.
Le deuxième film de sa liste, c'est J'ai perdu Albert.
Ah, bah c'est moche ça, mais je vois, c'est quoi, J'ai perdu Albert, c'est avec qui?
C'est un film de 2018, je le mets tout de suite dans le devoir de vacances.
Ouais, ouais.
De Didier Van Kovelaert, qui est écrivain, je crois. J'ai perdu Albert avec Stéphane Plaza.
What the fuck? Ça existe, putain, ça existe vraiment ce truc?
Ouais, ouais, mais j'espère que c'est disponible sur les plateformes. J'imagine que c'est sur M6, tu vois, vu comment ils ont des billes ensemble.
Oh la vache.
Ah, et alors, anecdote, je l'ai vu au cinéma avec Max Besnard, parce que Max Besnard, ce jour-là, faisait MDR avec moi, et donc du coup, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est... Et pour nous, c'est une référence, ce film, c'est une référence de... C'est une référence de « Il se passe pas grand-chose ». C'est quoi le pitch, Albert? En fait, c'est Stéphane Plaza et je sais pas qui, enfin un personnage, sans doute agent immobilier, j'en sais rien. Et dans sa tête, soudainement, il y a Albert Einstein qui commence à parler.
D'accord.
Et c'est ça, le « J'ai perdu Albert ».
Ok.
Et du coup, il y a un moment, une scène de chute, où il chute d'un radeau. Genre sur un lac, et c'est la seule chose dont je peux te parler de ce film. Il faut que je le revoie.
Quelle angoisse.
Et le troisième film de sa liste,
oui,
c'est La vérité si je mens 3 avec Cyril Hanouna.
Ah merde, il a joué dans La vérité si je mens 3.
Tu l'as vu ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu.
Celui-là, il te plaira parce que tu sais qui sont les méchants. Non, en plus, on les avait pas mal classés, la vérité.
Non, le premier, non. Le premier, oui, oui. Le premier, oui. Mais là, le 3, je crois qu'on avait classé aussi le... Attends. Parce que j'en ai vu 2, j'ai vu le 1. Et est-ce que j'ai vu le 0, je sais plus lequel c'était.
Ah, le Origins. Le Origins qui est un peu le film maudit, ouais. qui est peut-être le meilleur, en fait.
Mais je crois que c'est celui-là aussi que j'ai vu et qu'on avait classé, il me semble. Il n'y en a pas 2, non, je sais plus, il y a un truc... Enfin, ça tout se mélange.
Attends, bah c'est pas compliqué. On reprend les années 2000. La vérité... Attends, on va chercher la vérité. Vérité... Ah non, merde, c'est que des années... C'est que les années 2010, sa vérité, si je vois.
Non, parce que le premier, c'est les années 90. Ah, c'est peut-être le 2, alors.
Putain, c'est... Non, t'as raison, je suis... Vérité... Oui, c'est dans les années 90, que je suis bête. On a classé lequel? On a classé le 1.
Le 1, ouais.
Il est 162e, sous Adam's Family, mais au-dessus de Rasta Rocket et Space Jam.
Eh, c'est pas si mal.
C'est pas si mal, il est 162e sur 320. C'est vraiment, il est vraiment, oui, le ventre mou absolu, quoi.
Voilà, c'est ça. Il est pas honteux.
Donc tu l'as pas vu. Il y a Cyril Hanouna dedans. Il fait un tout petit rôle.
Ouais. Mais est-ce que vraiment, même en tout petit rôle,
je... Non, il fait vraiment un tout petit rôle. Et alors, je peux te dire un truc. Tu veux que je te dise? À un moment, ils font une fête. Tu sais, il y a toujours une scène de fête ou de mariage, oui, sûr, ouais, un truc comme ça. Et il se laisse aller, et il y a Enrico Macias qui joue dedans.
Bah évidemment.
Et Enrico Macias, mais il joue un rôle, c'est pas, il vient pas comme Enrico Macias.
Ouais, oui.
Et à un moment, et ben c'est Cyril Hanouna qui pète les plombs, et au lieu de faire dire son nom, je sais pas, genre Roger, et là il fait Enrico, c'est genre comme s'il commence à péter un plomb et tout le monde lui fait non, arrête, il c'est un personnage, c'est pas Enrico Macias. Bref, à cause, voilà, de lui, okay, ils ont fait plusieurs prises, voilà. Je sais pas si c'est un grand acteur, mais...
Je suis pas sûr, non.
Donc, on remercie Enzo, fidèle auditeur et patron.
Pour ses ajouts.
Mais je voulais un peu intensifier un peu,
oui,
les devoirs de vacances, quoi.
Ouais, je vois bien.
Alors, on va prendre un autre fidèle de l'émission.
Eh bien, écoute, un autre fidèle, ce sera une émission consacrée aux fidèles, voilà.
Ouais, mais je remercie Marc Andou pour sa liste.
Merci Marc Andou pour ta liste, tout à fait.
Et c'est une liste dont j'ai vu deux films, je crois que j'ai vu deux films. C'est une liste qui s'appelle Écurie Luc Besson.
Oh putain,
à défaut de pouvoir... À défaut de... Ben oui, oui. Non, mais... À défaut de pouvoir parler des films de Luc... Voyons son héritage. Et tu sais pourquoi j'ai choisi cette liste?
Parce que t'as envie de c'est me faire parce souffrir, que... c'est pour ça?
Non, parce que Luc Besson a sorti un nouveau film.
Deux? Enfin non, oui, un, mais il y en a un autre qui arrive bientôt.
Et est-ce que tu as vu Jude and John?
Non, on m'a fait parvenir une copie du film, mais il est vraiment assez bas dans ma liste de priorité pour le moment.
Ah, et comme c'est sur 70 mm et t'as pas le matériel...
C'est ça. Exactement. Bah,
c'est pas Jude, c'est June. C'est June. Pardon, Luc. Je pense que même pour un. Même par rapport à ce que tu peux t'attendre de Luc Besson, c'est décevant.
Par contre, j'ai vu son trailer de Dracula. Et vraiment, ça donne. Pas envie.
Bah, ça donne envie de revoir. Ça donne envie de réévaluer tous les autres films de Dracula.
De Dracula, c'est ça.
Mais honnêtement, June and John, bah écoute, je pense que tu vas gâcher une bonne soirée. Tu sais, tu pourras faire n'importe quoi. Mais tu vas le voir. Pour ta culture.
Il va falloir un jour, peut-être, oui.
En plus, c'est pas du tout un film classique, tu sais. C'est un mec dans un bureau, et puis un jour, il y a une femme aux cheveux courts qui arrive et qui dynamite sa vie et qui lui dit « Mais vis, bon sang !» Et voilà, c'est...
Cours, bon sang. Sors.
Cours, mais prends ma main et ne te laisse pas faire par la machine, par le commerce. Alors, on va peut-être se moquer un peu de Luc Besson, je suis désolé dans cette liste. Et donc, c'est que des films produits par Robin Pacorp dans les années 2010. Il y en a un, et on commence tout de suite par un que je crois pas avoir vu.
Ok.
Et balance. Pourtant, beaucoup de gens nous le demandent, c'est From Paris with Love. Est-ce que tu l'as vu?
Oh, putain, oui, je l'ai vu. Et oui,
c'est
je l'ai
quoi,
vu.
Déjà c'est pas le truc avec John Travolta?
C'est le truc avec John Travolta et Jonathan Rhys-Meyers. Je l'ai vu, et je l'ai vu en salle, ce truc.
Je crois que j'ai aucun souvenir.
Je l'ai vu en salle et je crois que salle, c'est vraiment comment je me sentais à la sortie de la séance, tu vois.
Je regarde. Je suis désolé, je n'ai pas vu du tout ce film. Mais voilà. Scénario, Luc Besson.
Oui. Ça se... bah, tu verras, il y a quelques archétypes d'écriture que tu reconnais.
On peut dire des scories même à ce moment-là.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a une pute, et il veut sauver à bord d'une Audi, c'est ça ?
C'est ça, puis il y a des flics, ils sont un peu bêtes, et puis il y a de la carambolage, et il y a un grand black qui tape tout le monde, enfin, on a tout.
Ah, c'est vraiment le menu, quoi.
Mais,
Luc Besson, menu A.
Le seul truc qui sauve vaguement From Paris With Love, c'est que j'ai tendance à le confondre avec Bastille Day, le film avec Idriss Elba.
Ouais.
Et tu vois,
nul aussi. Hein.
Qui est nul aussi, en fait, ce qui est vraiment nul à chier. Et les deux sont nuls à chier. J'ai tendance à les superposer. Voilà, c'est...
Mais je crois que Bastille Day, c'est celui qui utilisait les deux acteurs de Game of Thrones au moment où Game of Thrones était au top.
Il y avait le fils. Le fils Stark, voilà, qui...
Putain, on n'avait que leur nom en tête il y a quelques années seulement.
C'est ça. Désolé pour lui, mais bon, ça va rester quand même son rôle phare. Mais oui, il y avait effectivement
Ned Stark. Il y avait Jon Snow. Et il y avait Jon Snow aussi.
Ouais, c'est ça.
Et Jon Snow, n'oubliez pas, il est dans le monde Marvel.
Oui. On ne sait pas s'il va revenir. Parce que
je pense que c'est foutu. Je pense que c'est foutu pour Dan Whiteman, alias The Black Knight.
Ouais.
Je pense que la tournure du monde Marvel, c'est pas de se dire on prend pas le Black Knight, on va reprendre Iron Man.
C'est ça. Je crois qu'effectivement là, ils ont essayé un peu lamentablement de raccorder les wagons avec The Eternals dans Brave New World, mais je crois qu'ils vont laisser tomber quoi.
Le deuxième film de cette liste est le Golden Boy du cinéma français. Celui qui a réalisé avec les plus grands, à savoir Vin Diesel, et Vin Diesel, à savoir Louis Leterrier, c'est Insaisissable.
Ah
oui. Et c'est pas une production Besson, mais comme il y a Louis Leterrier...
Oui, comme voilà. Il y a Louis Leterrier, etc. Oui, d'accord, je vois le truc. Donc Insaisissable, donc avec Jesse Eisenberg...
José Garcia,
Woody Harrelson, Mark Ruffalo. C'est le film, vous le connaissez tous, parce que le gif animé de Woody Harrelson qui pleure en s'essuyant les larmes avec des billets, ça vient de ce film là. Voilà.
Non, attends, c'était pas.
Si,
c'était pas dans. T'es sûr?
Ah, je suis quasiment sûr. C'est pas... Alors, c'est peut-être moi qui
l'ai dit. Moi, je suis persuadé que c'était dans le truc de Zombieland.
Ah, pour moi c'était Insaisissable. Écoutez, on va laisser les experts, on résoudra ça au prochain épisode.
Voilà, moi je vote pour Zombieland parce qu'à un moment il dit je me souviens bien de cette scène.
Bah peut-être, alors c'est peut-être moi qui superpose les deux, mais.
S'il y a Woody Harrelson, c'est déjà mieux.
Oui, déjà, quitte à faire surjouer quelqu'un, tant que ce soit Woody Harrelson.
Mais là, t'as dit en plus, t'as pas tout dit le All-Star, puisqu'il y a Mélanie Laurent aussi.
Oui.
Il y a Dave Franco, il y a Morgan Freeman, il y a Michael Caine, enfin vraiment, c'est un all-star.
C'est ça, et José Garcia, donc, voilà.
Ne
l'oublions pas.
Et le film est sorti en pleine explosion, enfin, je sais pas si c'est vraiment l'époque, mais enfin, c'est en tout cas mon impression, de retour en grâce des prestigidateurs, tu sais, des mecs qui font de la magie, l'hypnose et tout ce genre de trucs. Et c'est l'histoire de quatre magiciens, mais en même temps qui sont, c'est des escrocs.
C'est des arnaqueurs,
ils essayent de voler des thunes tout en faisant des spectacles.
Oui,
j'ai retrouvé le mot, c'est illusionniste, prestigitateur.
Voilà. Prestigitateur, effectivement, c'est les... Les mentalistes, moderne,
mentalistes, voilà.
Voilà, les mentalistes, etc. On est là-dedans, effectivement. C'est le moment où la série mentaliste, je sais plus si elle cartonnait, mais en tout cas, c'était plus ou moins dans les mêmes eaux, où t'avais les pubs pour Mesmer. Voilà, mais oui, et t'as bien résumé le truc, c'est-à-dire que c'est une troupe donc d'illusionnistes à succès, puisqu'ils remplissent des salles absolument énormes, et ils utilisent leur spectacle là, pour commettre des braquages, et évidemment des braquages complètement impossibles, voilà, bah, plusieurs milliers de kilomètres de distance, voilà, des choses de cet ordre-là, quoi. Et du coup, ils sont poursuivis par un agent du FBI. Alors du coup, c'est Mark Ruffalo l'agent du FBI ou il est dans l'équipement. Et c'est Mark Ruffalo, pas le méchant, mais le...
Mark Ruffalo, c'est l'antagoniste. Quoi.
Oui, c'est ça, c'est l'antagoniste. C'est pas le méchant parce qu'il est pas méchant, mais c'est l'antagoniste, effectivement, c'est celui qui leur court après. Quoi.
Et c'est Mark Ruffalo post les années Marvel, donc c'est un peu lui la star aussi.
C'est un peu lui la resta. Voilà, donc... comment dire, voilà, du coup, après, voilà.
Alors, c'est un film. Moi, j'ai un autre détail à ajouter, et il y a son importance. C'est une production Kurtzman et Orsi.
Ouais, et...
Tu les remets, c'est ceux qui ont fait Star Trek.
Ah oui,
c'est ceux,
oui.
On les citait beaucoup au siècle dernier. C'est ceux qui ont produit les Transformers.
Oui,
tout à fait. Enfin, c'est quand même c'est le duo de l'enfer, hein, honnêtement. C'est...
Bah... De toute façon, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les mecs ils se sont dit, et si on allait faire Ocean's Eleven pour le public d'Américain moyen, en fait. C'est-à-dire qu'on va, un peu enlever tout ce qui faisait la particularité de la saga de Soderbergh, donc le côté un peu surélégant, un peu sophistiqué, voilà, pour en faire un truc plus... plus grand spectacle encore, en fait. Puisqu'on va y mélanger des trucs de mentalistes en plein milieu, quoi.
Ça y est, je m'en suis souvenu. Orsi et Kurtzman, c'est les deux scénaristes de Transformers 2 qui ont été enfermés dans la chambre d'hôtel par Michael Bay, qui les a enfermés pendant 2 semaines en leur disant, deux heures, écrivez-moi le scénario de Transformers 2, sinon vous sortirez pas vivant d'ici.
Voilà, exactement.
Voilà, la fois c'est des héros, à la fois c'est des criminels. Hein,
Mais c'est ça finalement les vraies figures mythologiques qui marchent, c'est ceux qui sont pris comme ça en étau entre leur destin de héros et leur destin de vilain, quoi.
Et alors attention, évidemment, Kurtzman produit Insaisissable 3. Je sais pas s'il le scénarise. Non, il le scénarise pas. Par contre, je viens de voir un truc, c'est que Orsi est décédé.
Ah merde. Ah, désolé pour lui.
Il était tout jeune, désolé pour lui, à 51 ans. Il est décédé d'une maladie rénale.
D'accord, ok.
Puisque je regarde cette année, genre en février, mais évidemment, les médias français n'en parlent pas, c'est qu'ils essayent de faire taire tout
l'omerta,
ça.
L'omerta.
En 2024, alors je lis le Wikipédia, c'est pour ça que j'ai découvert son décès. Hein. Je n'ai lu personne en parler, alors que c'est quand même. Il a scénarisé Amazing Spider-Man, tu vois, tous les derniers Spider-Man. Le Spider-Man, le deuxième, là, de Mark Webb, c'est lui.
Mais je crois qu'en fait, le truc, c'est que c'est des postes qui, sur ce genre de film, n'intéressent personne, en fait. Tu vois ce que je veux
dire?
Non,
ils sont juste fonctionnels. C'est qu'ils prennent des éléments de BD,
ouais.
Ils y prennent des éléments. Et alors, je vois aussi une autre ligne, c'est en 2024, son épouse, actrice, dépose plainte contre lui pour viol conjugal et violence.
Bon.
Et tu meurs juste après.
Écoute, bon,
ton héritage est entaché.
Ouais.
Allez, on retourne à Insaisissable. Donc, l'agent du FBI, il veut arrêter nos illusionnistes et c'est un peu le spectacle de Lupin, c'est-à-dire ah maudit, je vous aurai. Et à chaque fois, il s'échappe.
C'est ça.
Et voilà. Je sais pas.
D'ailleurs, effectivement, la série Lupin avec Omar Sy, enfin, emprunte énormément. À Insaisissable dans le ton, dans les scories, même dans la mise en scène, etc. Enfin oui, c'est une influence assez
oui, il y a des trucs de prestigitation, ouais.
Ouais,
et un peu d'hypnose, enfin, ou plutôt de genre je garde le contrôle de la situation. C'est marrant parce que je pensais à Lupin comme Lupin Sensei, enfin,
oui bien sûr,
Lupin,
mais
Edgar la cambriole
qui
a cette dynamique de flic qui court toujours derrière.
Mais du coup quand tu l'as dit, effectivement j'ai repensé à Lupin, la série Netflix, et qui il y a une filiation très claire, parce que pour le coup Insaisissable c'est un film qui a vraiment marché. On en a 3 aujourd'hui, et voilà, donc effectivement c'est une influence qu'on va retrouver plus tard, quoi.
On va ouais, et maintenant passons au film peut-être. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter au film ou on passe
non
au...
après faut, voilà faut pas
à,
trop révéler
cette,
parce
à cet
que...
immense succès.
Oui, très 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 grand succès.
Non. Non mais révéler quoi ? Au bout d'un moment, il y a toujours un truc de ah, c'était pas ce que tu croyais.
Oui,
puis,
bien sûr, mais
c'est reparti quoi.
Mais disons que voilà, le principe même du film, enfin, repose vraiment sur le côté tour de magie, et c'est un tour de magie géant, etc. Donc voilà, puis la structure globalement, vous l'avez. Un flic leur court après, ils font des spectacles, en même temps ils font des braquages. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Voilà. Truc que moi je trouve avec insaisissable, c'est que j'aime beaucoup le premier numéro, tout le début du film, quand en fait tu découvres le concept.
L'escapisme.
L'escapisme, tu découvres le show à l'américaine presque façon Las Vegas, et enfin voilà, parce que avec les scènes énormes, les mecs au discours hyper bien rodé, où avec leur micro ils se reprennent l'un l'autre, etc., le truc hyper efficace, voilà, et le braquage qui a lieu sous nos yeux, je trouve l'entrée en matière assez réussi et assez efficace quoi.
Et après c'est un petit peu voilà,
et après
ça... je crois qu'une fois que le FBI rentre en jeu, c'est un peu chiant en fait.
En fait après le truc c'est que le film en fait il pâtit du fait que sa meilleure scène c'est sa scène d'ouverture très clairement, et le fait que derrière voilà il va avoir tendance à se répéter, à multiplier les pistes, les fausses pistes et les choses comme ça, et et c'est très étrange, mais autant je trouve que on l'a dit, le casting est pour le coup vraiment démentiel, parce que voilà, que des grands noms, etc., et en même temps je trouve que le film échoue complètement à créer une dynamique de groupe en fait. C'est l'anti-Avengers en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire
ils s'entendent pas, et on a l'impression que ça se voit qu'ils s'entendent pas.
Ouais.
Pourtant ils ont fait un 2 et un 3.
Ouais. Il y a vraiment un truc où les comédiens individuellement sont au taquet. Jesse Eisenberg qui poursuit finalement sur sa lancée de social network en leader charismatique qui est capable de bouffer une audience, etc. Il est bien employé, Woody Harrelson. Mais ils font jamais corps en fait. Il a un peu le syndrome Fast and Furious 8, où t'as la sensation que certaines scènes ont été tournées dans des endroits différents et racolées après en post-production quoi. Je trouve qu'il y a aucune dynamique de groupe, et pour le coup c'est là où l'écart se joue avec un Ocean's Eleven en fait, où Soderbergh arrivait à créer une espèce de d'émulsion entre les personnages, une complémentarité et voilà, quelque chose qui fait que on avait vraiment la sensation d'avoir un groupe et une équipe, alors que là, bah au contraire, on a juste l'impression d'avoir des bons comédiens côte à côte, mais j'arrive jamais à croire à cette équipe, j'arrive jamais à croire à cette histoire, à leur motivation, enfin, il y a un truc où ça s'écroule, et comme le film, du coup, passait son concept de base, donc on fait des braquages avec des numéros de magie, n'a aucune autre idée, il en devient hyper répétitif. Et au bout d'un moment, je finis par lâcher l'affaire, et toute la deuxième heure du film, pour moi, c'est un espèce de gloobie-boulga où tout se mélange, parce que je trouve qu'il n'y a plus rien qui ressort. On fait une espèce de fuite en avant dans la répétition, dans la formule un peu déjà toute prête. Alors c'est pour ça que j'ai pas vu le 2 et le 3, j'avoue, j'ai pas vu le 2 et le 3 parce que je me suis dit si déjà je trouve ça essoufflé au bout du 1, je sais pas comment est-ce que ça va faire le 2 et le 3. Et puis il y a cette mise en scène de Louis Leterrier il sait pas trop quoi faire, passer les 2-3 idées qu'il a mis au début et qu'il recycle à fond, et ça fait un film qui est plus hystérique que vraiment entraînant quoi. C'est vraiment un film qui je pense a conscience de ses propres faiblesses et qui essaye un peu de t'agiter le bocal avec la mise en scène, mais je trouve ça tombe à plat quoi.
C'est d'ailleurs un peu bizarre parce que j'ai toujours, quand j'ai vu le 1, enfin j'ai pas vu le 2, et j'ai le 3, il s'appelle Now You See Me, Now You Don't, ok. J'ai l'impression de voir en fait plusieurs films, en fait j'ai l'impression que ça a été filmé par des réalisateurs différents, parce que ce qui se passe sur scène est filmé d'une telle manière que t'as pas l'impression que c'est dans le film, t'as l'impression que c'est des extraits qui ont été rajoutés.
Il y a un peu de ça. En fait, c'est
très artificiel comme cinéma, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, les représentations scéniques sont, bah, sont filmées comme des représentations scéniques américaines, en fait. Vraiment, c'est les shows de Las Vegas retranscrits à la télévision, le Super Bowl, etc. C'est filmé comme le Super Bowl, en fait. Et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne aussi bien, parce que tu commences directement là-dessus, au début, puis après, on va transitionner sur, justement, du cinéma plus classique, donc avec les personnages qui sont entre eux, qui ont leur vie, etc. Et là, ça fonctionne de suite vachement moins bien. Et du coup, le côté très chaud à l'américaine au Super Bowl, quand ça revient, au bout d'un moment, t'es fatigué parce que t'as déjà eu le truc au début, voilà, et ça arrive jamais à se renouveler suffisamment, quoi.
Je fais une proposition.
Dis-moi.
Je le mets sous Amazing Spider-Man 2, même production scénariste. Ça veut dire 140e au-dessus de Madame, Monsieur et Madame Adelman.
Ok. Très bien. Ça me va.
Ça veut dire que je le mets sous Thor Ragnarok, sous Gods of Egypt.
Ça me.
Mais sous Hunger Games surtout. Je pense qu'Hunger Games, c'est. Voilà. Je pense que.
Sauf qu'Hunger Games est plus intéressant à film où Woody Harrelson vient pour toucher un chèque.
Au moins, il y a des. Ah oui, il y a des. Et il y a des personnages qui m'intéressent plus.
Oui, oui, voilà. Je trouve aussi qu'il y a un peu plus de trucs dans Hunger Games que là-dedans. Quoi.
Alors, et est-ce que... Bon, tu vas pas deviner le dernier film. Hein. Le dernier film de cette liste, on a déjà parlé de l'original, c'est un remake.
Ok.
C'est Brick Mansions.
Ah, oui. Donc, la version avec le mec de Fast and Furious, justement. Exactement. Paul Walker. Paul Walker, voilà.
Paul Walker. Et... mais David Bell dans le rôle du... Dans le rôle de l'autre,
voilà,
de l'autre
David,
protagoniste.
C'est ça. Effectivement, David Bell revient, du coup. Et c'est Risa dans le rôle du méchant, c'est ça ? Où il est.
C'est Verizay. Du Wu-Tang Clan,
ouais.
qui joue le méchant et qui remplace donc Bibi Nasseri.
Bibi Nasseri. Exactement.
Puis j'adore parler de Bibi. Car vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, Banlieue 13 a été écrit par Luc Besson et Bibi Nasseri. L'original.
On le sait.
Hein.
On le sait.
Qu'est-ce qui devient Bibi Nasseri ?
Je sais pas. Et je t'avoue que c'est pas un truc auquel je pense tous les jours. Donc voilà.
Tu sais ce qu'il a scénarisé, Bibi Nasseri ?
Non, dis-moi.
Ouais, il a co-scénarisé. Il a co-scénarisé Le Baltringue, figure-toi.
Ok.
C'est tous ces fun facts que tu voulais savoir.
Ouais, vraiment, c'était ce qui manquait, quoi.
Donc voilà, on retrouve Paul Walker à la place de Cyril Raffaelli. Et tu sais quoi ? Paul Walker, en plus, ce film est. Il sort à titre posthume, en plus. C'est
oui,
le
c'est
dernier
vrai,
film
vrai,
de Paul Walker.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
J'imagine que le film lui est dédié. Et alors, c'est quoi l'histoire ? C'est que. Alors, ça se passe plus en France, mais ça se passe aux États-Unis. Et il y a un policier qui s'infiltre dans une cité dans laquelle personne ne peut rentrer, qui s'appelle Brick Mansions, à savoir Banlieue 13 en France. Et il doit trouver une bombe atomique qui est détenue par les gangsters de banlieue. Et voilà.
C'est ça. C'est un des nombreux rip-off de New York 97 par Luc Besson.
Est-ce qu'il a été condamné pour celui-là ou pas ?
C'est pas pour celui-là, c'est pour le truc en prison là, avec l'acteur australien. Là, comment il s'appelait ce film ?
Avec Sam... le film. Avec Sam...
Ah putain, Sam...
C'est pas Sam Rockwell ?
Non, c'est... Je vais te le retrouver, c'est l'acteur qui joue dans... C'est Guy Pearce, voilà. Le truc avec Guy Pearce...
Ah, c'est Guy Pearce. Pourquoi je voyais Sam Rockwell ?
Voilà,
c'est... Tu sais quoi qui m'a fait un peu fait rire, ce film ?
Oui, ce que je peux comprendre, parce que... Enfin, voilà. Mais c'est pour ce film-là, donc... qui globalement, c'est New York 1997, mais dans l'espace... voilà, et Luc Besson s'est fait attaquer en justice et est condamné, et pour le coup à juste raison, parce que là ils reprennent tout, c'est-à-dire que
c'est la fille du président.
C'est la fille du président, comme dans Los Angeles 2013, qui était déjà un auto-remake de New York 97 par John Carpenter. Enfin bref, le mec il s'est pas fait chier. Mais ceci dit, Lockout, voilà. Ce film c'était Lockout.
Lockout, voilà, merci.
Scénarisé par Luc Besson. Mais Banlieue 13, à la base, et Brick Mansion, c'est aussi un remake déguisé, puisqu'on a cette même idée d'aller s'infiltrer dans une zone de non-droit pour aller récupérer quelque chose de vital pour l'humanité. voilà, et poursuivi par des gangs, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est un nouveau rip-off de Luc Besson. Et sans vouloir divulgâcher la fin, je préfère quand même Banlieue 13 à Brick Mansion.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah ouais, ouais, Brick Mansion, c'est vraiment pas possible, quoi. Enfin, je déteste Banlieue 13, contrairement à toi, mais à un moment donné, si tu veux, Banlieue 13, justement, avait pour lui le côté parcours et le côté, ok, on va faire ça en France, bon, ok.
Et là, ils refont le parcours scène par scène, ouais, saut par saut.
C'est ça, et là, ils vont te refaire exactement le même film, mais aux États-Unis avec une star américaine, mais en même temps, t'as l'impression que le film, il a pas coûté un dollar de plus. Enfin, vraiment, visuellement, c'est d'une tristesse, quoi. Et du coup, enfin, à ce stade-là, justement, de je m'en foutisme, c'est vraiment pas défendable, quoi, à mon sens.
Bah, je pense qu'il y avait un cahier des charges à remplir, je vais pas non plus défendre non plus. Mais moi j'ai une petite tendresse parce que c'est le dernier film de Paul Walker et tu vois Paul Walker qui court et je suis un peu ému, quoi. Genre c'est son dernier film et il est en train de courir. Je sais pas, je trouve ça beau. Il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans.
Mais ça sauvera pas, voilà.
Et il y a Reza qui cite le Wu-Tang Clan.
Oui, c'est oui.
Il fait des punchlines du Wu-Tang Clan et genre. Un peu, il y a un côté petit fanboy là en moi qui dit ah, c'est fait pour moi ça. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est avoir perdu Bibina série dans le chemin, au long du chemin. Je sais pas si tu te souviens des scènes où Bibina série il prend de la coke dans Banlieue 13.
Si.
C'est pas le truc le plus subtil du cosmos.
Non, mais là, le truc, c'est qu'effectivement, je dis pas que Banlieue 13 est mieux, mais juste quitte à faire un remake plan pour plan qui a l'air, qui est quand même visuellement et artistiquement complètement craignos, c'est encore moins défendable. Enfin, il y a vraiment un truc à un moment donné, je peux pas me permettre de défendre un truc comme ça, c'est nul et non avenu, quoi. Donc je peux comprendre la démarche pour David Bell, parce que il se disait ça va me permettre de me faire un nom à Hollywood.
Quel gâchis, David Bell. Mais, quel gâchis, il aurait pu être je trouvais qu'il avait vraiment, je pense que tu vois, quand je voyais David Bell à l'époque, peut-être dans plus Banlieue 13 encore que Brick Mansion, je me disais, putain, c'est le mec qu'il faut prendre pour Daredevil, quoi. Il saute partout, il est agile, il est... il était beau à voir au cinéma, quoi. Enfin, genre, j'adore voir le beau travail de cascadeur. Et ça, moi, je faisais partie de ceux qui étaient assez hallucinés devant le... Je regarde encore parfois des vidéos de mecs qui font du parcours, tu sais, les mecs un peu fous qui sautent des ravins et tout ça. Et il y avait un truc assez hypnotique dans sa beauté. Il y avait quelques fulgurances, mais c'était vraiment de l'ordre athlétique. Hein, c'était pas de l'ordre de la réalisation, hein, bien sûr. Mais...
En fait, c'est ce qui manquait à David Bell. Il lui manquait le Guillaume Pierrier de son époque, en fait. C'est-à-dire qu'il lui manquait le mec qui débarque de nulle part et qui arrive à te faire un truc comme Balle perdue. Tu vois, dans ce contexte-là, avec un réalisateur de cette trempe, on aurait pu avoir une toute autre carrière, en fait. Là, le truc, c'est qu'effectivement, il arrivait, il avait son truc, ça a été repéré, mais il s'est retrouvé pas en brigadé, mais en tout cas, il s'est associé avec ceux qui voulaient bien, et ceux qui voulaient bien, c'était pas forcément les Picasso de la bande, quoi.
Bah, c'était un peu comme Ong Bak, tu sais, Ong Bak, si tu regardes Ong Bak au ralenti. Il y a des mots genre à bientôt Luc, tu sais, ils voulaient voir Luc Besson et tout ça. Et tu sentais que pour eux, c'était méga valorisant de se faire voir par Luc Besson et ensuite de travailler avec eux. Mais que de pas se rendre compte peut-être aussi que si tu travailles avec Luc Besson, tu deviens un peu aussi... bon, le terrier, il en est sorti, mais tu deviens un peu comme un acteur d'AB Production qui rentre dans AB Production et ensuite, il est plus pris au sérieux.
Tu deviens un accessoire dans la boîte à outils, en fait. De Luc Besson.
Ouais.
C'est un peu comme ça qu'il voyait son écurie, quoi.
Bah ouais. Et puis, il y en a qui prenaient vraiment, tu te demandais, Gérard Krasbik, t'es sûr ? Et
ouais,
qu'est-ce qui devient Olivier Mégatonne ?
Je ne sais pas. Je sais que Louis Leterrier va faire comment ça s'appelle le Fast and Furious 11-2, c'est ça. Alors j'ai oublié de.
Non, il a fait le premier aussi.
Ah oui. Ah parce qu'il n'y a pas un autre qui est sorti entre temps.
Non.
On attend depuis 3 ans ou 4 ans la conclusion, c'est ça en fait.
Ben ouais. Et puis okay. Bah, peut-être les acteurs ils vont passer à autre chose hein, peut-être après.
Oui, d'accord. Mais tu vois, mais j'étais tellement. Je sais pas ce qui devient Olivier Mégaton. Ouais. Je ne sais pas du tout. Il avait fait un truc pour Netflix au début des années 2020. Un truc de. Je sais plus, un thriller, un truc comme ça. Mais voilà, je ne sais pas trop ce qu'il a fait depuis.
Et puisque tu veux.
puisque je veux.
Puisque tu veux, tu insistes pour avoir des nouvelles de Camille Delamarre, qui a réalisé donc Brick Mansions. Il oui. était monteur sur Lockout, si tu.
Ah, bah voilà.
Me croiras-tu. il a réalisé un film qui va sortir bientôt qui s'appelle Certains l'aiment chauve. Est-ce que tu es au courant de ce film?
Ouais, je suis au courant de ce film, ouais. J'ai vu passer l'affiche. Voilà.
C'est un film sur la calvitie avec Kev Adams et Michael Youn.
Et vraiment, rien que. Entendre me décrire ça, ça me donne une envie, mais phénoménale, de faire complètement autre chose que de regarder ça.
Tu sais quoi ? Peut-être que sur Terre 2, je l'ai déjà vu. Heureusement, on est sur Terre 1. J'ai encore de l'enthousiasme et je me dis, ce projet tient debout.
Pourquoi ça ne m'étonne pas ?
J'ai hâte de le voir.
Pourquoi je ne
suis pas sûr ? Non, je t'ai dit sur Terre 2, peut-être oui, que je l'ai vu. Mais là, on est sur Terre 1, malheureusement.
C'est ça.
Ouais. Et tiens, je voulais rajouter un truc, on n'en parle jamais, mais c'est Robert McCammon qui aide Luc Besson au scénario de Brickman Shots. Qu'est-ce qu'il y avait à aider ? C'est le même scénario, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il ne voulait pas donner de crédit à Bibi Nasseri ? Parce qu'il est connu pour
ah,
ça,
oui,
Luc Besson.
Oui,
il écrit tous les scénarios pour avoir les droits d'auteur, en fait. C'est vraiment l'astuce. Comme ça, il gagnera quoi qu'il arrive des thunes. À chaque diffusion télé, il va gagner des thunes. Et ce qui est intéressant avec Robert McCammon, c'est que c'est le mec qui a scénarisé tous les Karate Kid. Et enfin, pas tous, mais en tout cas les premiers. Et ensuite, c'est Luc Besson qui le récupère pour 5 éléments. Et à partir du 5 éléments, il va tout faire. Il va faire les transporteurs, il va faire le baiser mortel du dragon, les Taken, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, il va faire Brick Mansions et tout ça, quoi. C'est vraiment le...
C'est une carrière bien remplie.
Non, mais c'est fou, quoi. C'est fou comment... T'avais une carrière assez intéressante. Tu travaillais avec Richard Donner, quand même. Il travaillait sur L'Âme Fatale 3.
Puis, en plus, t'étais effectivement plutôt bien en vue. Enfin, en tout cas, en bonne position Hollywood, quoi.
Et un jour, tu croises Luc Besson et t'es aspiré dans le truc et tu te retrouves à faire Taken 2, 3. Taken 3, Transporter 2, Transporter 6... Ah là là, vraiment, c'est intéressant. Faut l'interviewer, ce mec.
Est-ce qu'on est sûr qu'il a écrit d'ailleurs les scénarios des Taken et des Transporteurs dans l'ordre ? Parce que s'il faut, il a juste écrit une série de scénarios, et un jour, Luc Besson a débarqué, il en a pris un au pif, et il a ajouté 2-3 selon l'ordre de production. Je suis pas sûr qu'il y ait, tu vois, il y a une... Et à mon avis, c'est une méthode d'écriture et de t'assurer la pérennité d'une licence qui doit exister, ça m'étonne.
Écoute, je sais quelque chose sur Taken, mais je peux pas le dire à l'antenne, sinon je risque de...
Tu te prends un scud.
Je risque de prendre un procès ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais quoi ? Très bon film Taken, j'adore. Vraiment, c'est super.
Bah, le premier,
une idée originale, en tout cas.
Le premier, en tout cas, on l'apprécie. Le premier Taken, on l'apprécie.
Ah bah, il est super. Qu'est-ce qui devient Pierre Morel, aussi ?
Pierre Morel, il a... Attends. Non, c'est Louis Leterrier qui
Vraiment, c'est vraiment...
Louis Leterrier, c'est lui qui a fait le Hulk. Voilà.
Ouais.
Pierre Morel, c'est celui qui a fait donc Banlieue 13, aussi. Il a travaillé dessus, non ? À la mise en scène. Je sais pas ce qu'il a fait depuis. Je crois qu'il a rien fait de vraiment notable.
Alors Pierre Morel, alors je suis en train de regarder. Pierre Morel, il a réalisé plein de films. Il a réalisé Embuscade.
Mais c'est pas lui qui a fait From Paris With Love aussi d'ailleurs.
Oui.
Oui, c'est ça.
Embuscade,
ouais.
un film sur les. C'est quoi un film sur... Qu'est-ce que c'est ?
C'est pas un truc sur les forces spéciales. Sur les forces spéciales.
Des Émirats.
Ouais, ou un truc comme ça, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Oh là, ça a l'air de... Ça a l'air d'être un travail de commande, ça, je crois. Je crois que tu ne viens pas à ce projet-là comme ça.
J'ai vu le truc parce que je crois que c'est un film de commande, effectivement, financé par des maisons de production américaines, mais commandé par un émir des Émirats Arabes Unis.
Donc, qu'est-ce que tu fais ? Alors, toi qui es expert
ça
en
sent,
film
voilà, ça sent, ça sent la lambrouille, quoi.
Je pense. Il a fait freelance avec John Cena et Alison Brie. Pas vu.
Ah oui, j'ai pas vu, mais j'ai vu le. Je crois que c'est sur Amazon Prime, mais j'ai fait nope. Voilà.
Et Canary Black avec Kate Beckinsale.
Waouh. Eh ben.
Je suis étonné. Je croyais que Kate Beckinsale, elle faisait plus que des vidéos où elle faisait du yoga sur Instagram. Moi. Ah, c'est un film sorti sur Prime Video.
Sur Amazon Prime, ouais, c'est ce qui me semblait, ouais.
C'est, donc, tu peux être sûr que ça, c'est un vortex dans lequel on ne reverra jamais le film.
C'est ça.
Attends, mais tu sais quoi ? J'ai envie de le voir, ce film de propagande, là.
Écoute, faudra le mettre
en film produit par les Émirats Arabes Unis sur la guerre civile yéménite.
Ouais, voilà, j'avais vu passer
le truc. Et tu sais quoi ?
J'avais repéré, mais honnêtement, quand j'ai vu je crois que j'ai vu une scène en extrait, et j'ai vu le casting et tout, enfin le casting, même casting technique, j'ai fait wow, la flemme.
Et tu sais quoi ? Moi, je vois ça comme un film, c'est genre, c'est un gladiateur et il récupère sa liberté.
Écoute,
par rapport à Luc Besson,
c'est ça, oui. Il s'affranchit comme il peut. Voilà. Bon, bref.
Non, en attendant de voir Dracula, Brick, peut-être qu'on va. Brick Mansions, c'est pas ouf. Et il n'y a pas peut-être le charme un peu suranné, genre la photo française, quoi.
Ah non, mais la photo, elle est dégueulasse, quoi. C'est un espèce de truc.
Mais
je pense que ça sent le DTV, mais à des kilomètres, quoi.
Je pense que t'as raison sur un truc. Ils avaient pas un sou de plus et ils ont fait. Ils avaient le truc. Ils avaient à respecter le.
Ah ouais. Il y a
tout ce qui a déjà été fait.
Non, il y a zéro travail. Enfin, pour le coup, en dehors de juste refaire tourner. Enfin, il y a zéro travail là-dessus. Enfin, c'est non. Pour moi, ça va. Ça va même sous Die Hard 5. Hein, attends. Moi,
il y a Reza qui m'a fait rire. Je sais pas.
Alors c'est juste parce que Taxi 5 c'est vraiment nul à chier, mais je préfère 10 fois les Visiteurs de la Révolution. J'hésite
à
même
ça
pas. Ah bien sûr. Y a plus de lait dans Paris. La vache elle dort.
C'est
y a
vrai.
Plus de lait,
okay,
pour Robespierre. Quelle fausse note. Voilà,
tu m'as eu. Mais est-ce que c'est. Alors attends, on va essayer de voir. Est-ce que c'est pas mieux que Pixel ?
Non.
Ah oh, putain, t'es dur, parce que Pixel, c'est vraiment nul.
Oui.
Ok, bon, écoute, entre Les Visiteurs et Taxi 5, ouais. Une autre production, Luc. Je préfère regarder Brick Mansions 10 fois que Taxi 5, à nouveau.
Ça, je peux te l'accorder.
Je te remercie.
Ça, je peux te l'accorder.
Je te remercie. Bah écoute, on a fait deux listes, là, c'est bien, là, on a battu notre record précédent.
C'est ça, deux listes, bon, trois films, hein, du coup, donc, vraiment...
Mais trois films, et tu sais quoi, on remonte le prochain épisode, on va faire quatre films, qui sait.
Oui, c'est ça, qui sait, et peut-être même des bons films, voilà, donc, c'est pas garanti, mais voilà,
restez. Ah bah là, on a rigolé, par contre, on a rigolé, hein.
Ah
oh
oui,
là,
ça,
là, on a rigolé.
Oh là, qu'est-ce qu'on a rigolé, là. Oui, on s'est refait la carrière de Louis Leterrier et Pierre Morel, là, c'était... Putain, ça valait le coup.
Putain, j'ai découvert qu'il a fait un film de propagande, c'est ouf.
Eh ouais. Ça arrive même,
bah, écoute,
même au meilleur, mais bon, voilà, aussi à Philippe Morel. Non, Pierre Morel, pardon. Pas Philippe.
Très bon.
Excusez-moi.
Stéphane.
Oui, Daniel.
Quel est ta reco ?
Marocco, ce sera une Rocco série télé, puisque c'est une série dont la saison 1 est terminée maintenant. C'est une série qui s'appelle The Pit, qui sort sur Max, donc HBO Max. Voilà, et The Pit, c'est le croisement entre Urgence et 24 heures chrono. Et si avec ça, je t'ai pas donné envie de regarder, je sais pas ce qu'il te faut.
Je suis un peu excité, hein. C'est vraiment ces deux kinks.
Voilà, puisque.
Et,
en fait,
et 24 heures du début ou de la fin ?
24, alors plutôt 24 heures du début. En fait, le truc, c'est qu'on va suivre une garde dans un service d'urgence d'un hôpital de Pittsburgh. Donc, The Pit, parce que ben, c'est à la fois le jeu de mots par rapport à pas la fournaise, mais la fosse, mais aussi par rapport au fait que c'est à Pittsburgh. Voilà. Et en fait, on va suivre une garde en quasi temps réel, c'est-à-dire que chaque épisode dure. Enfin, représente une heure de temps, mais dure à chaque, enfin toujours un peu moins, ne force pas le temps réel. C'est-à-dire qu'il y a parfois des micro ellipses au sein des épisodes, parce qu'en fait le but c'est pas de faire vraiment de la restitution temps, enfin en tout cas ils essayent pas de donner l'illusion d'une restitution temps réel à la lettre près, quoi. Donc c'est juste voilà, chaque épisode représente une heure de la garde. Et donc c'est porté par Noah Wiley, ou Noah Wiley comme toi tu le dis, donc je ne sais pas quelle est la bonne prononciation, donc le docteur Carter de Urgence, qui joue donc le responsable des urgences pendant cette garde. Je trouve que le casting globalement est super. Les personnages sont super. Il y a notamment la fille de Bryan Cranston qui joue dedans, qui joue un super personnage de médecin, pas vraiment vétéran, mais pas vraiment débutant non plus, qui a quelques petits soucis relationnels, qui essaie de les gérer au boulot. T'as la fille de Brad Dourif, Fiona Dourif, qui joue aussi un personnage. En plus, c'est marrant parce qu'à un moment donné, il y a tout un arc autour de ce personnage-là, avec la garde de son fils. Et à un moment donné, il y a le grand-père du fils, donc son père à elle, et c'est Brad Dourif en fait qui joue son père, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc t'as plein de trucs, t'as plein de personnages et d'acteurs super. Et puis moi là où je trouve que, enfin, la série m'a vraiment complètement cueilli, c'est que je pense que c'est vraiment en 2025 la série qu'il nous faut, dans le sens où c'est une série qui essaye de remettre l'hôpital au cœur de la civilisation, c'est-à-dire que c'est vraiment une série où le message c'est nos soignants, merci à vous, surtout qu'en plus vous travaillez dans des conditions de merde. Et vraiment, ça, c'est vraiment, et c'est sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment une série qui prend le pouls de l'Amérique, littéralement, quoi, et qui va se plonger dans qu'est-ce que ça veut dire être un soignant post-Covid dans une Amérique telle qu'elle est en 2025, même s'il n'y a pas de référence à MAGA ou direct ou choses comme ça, tu comprends très bien justement le contexte social, la pression sociale, tout ce qui entoure en fait ce service d'urgence où finalement il y a des gens qui sont là pour sauver des vies, et toute l'organisation, tout ce qui va se passer autour d'eux fait que la moindre acte ou la moindre décision est rendue atrocement difficile pour des raisons complètement absurdes, quoi. Moi j'ai vraiment adoré de bout en bout. Le seul défaut que j'y vois, c'est qu'ils vont produire une saison 2, et je pense qu'elle est complètement inutile, parce que à mon sens, je trouve que la saison 1 traite parfaitement tous ces thèmes et vraiment encapsule tout ce qu'il y a à dire en fait, je trouve que il y a un tout cohérent du début à la fin, avec une vraie conclusion, quelque chose de vraiment bien bouclé comme il faut, et le rythme justement de la série, donc une heure de garde par épisode, je pense que comme 24 heures chrono, à vouloir le reproduire, parce que je pense que c'est ce qui va se passer, à vouloir le reproduire sur une saison 2, ça va en fait essouffler le concept, puisque on va avoir du mal à retrouver finalement la même intensité sans plonger dans une certaine artificialité, quoi. Donc voilà, moi en tout cas, je prends vraiment ça comme une mini-série, c'est-à-dire un début, une fin, et un tout cohérent et définitif, et en tant que tel, je trouve ça vraiment génial, quoi.
Et pour ma part, j'ai décidé de te recommander quelque chose, particulièrement à toi en fait, parce que j'en ai pas parlé encore dans After Eight ni dans Super Ciné Battle.
Ah, tu gardes ça pour tes vrais amis.
Mais c'est une série que j'adore, qui s'appelle Gundam J-Quacks.
Oui, Bien sûr, j'ai pas encore commencé.
T'en as entendu parler ou t'as pas encore commencé?
J'ai vu les pubs, j'ai vu les épisodes arriver dans le, comment ça s'appelle, dans le, chaque semaine, voilà, de la publication, mais j'ai pas encore pris le temps de commencer. Mais je l'ai du coin de l'œil, évidemment, quoi.
Alors, elle s'arrête la semaine prochaine, et là, j'ai vu l'épisode 11. Et donc, tu peux t'imaginer que je suis comme ça. Imagine une série qui reprenne tout ce qui fait les fondamentaux de Gundam, qui les twist, mais qui en même temps rajoute un peu d'Evangelion.
Ah, mais c'est ça que je veux entendre, c'est ça dont j'ai besoin.
Et la fin est très 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 Evangelion, mais en même temps, c'est toujours, ça va dans une direction très 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 surprenante. C'est une série qui est produite par le studio Kara, et Kara que tu connais, puisque c'est eux qui ont réalisé tous les films d'Evangelion.
Ouais,
c'est eux, donc un des meilleurs films des années 2020, selon moi, le 3.0 plus 1.0.
Plus 1.0, oui, tout à fait. Ouais.
Vraiment un film extraordinaire, qui est dans mon top 10, personnellement. Et donc, c'est réalisé par Tsurumaki, qui est un peu le protégé de Hideaki Anno. Mais Hideaki Anno a travaillé dessus, d'ailleurs, et c'est assez rigolo de savoir ce qu'il a fait, parce que en fait, ils sont très loquaces sur leur production et sur qui a fait quoi. Et donc, mais c'est plutôt le show de Tsurumaki. Et ce qui est intéressant, bah, je peux pas te révéler pourquoi.
Bah oui,
si je te pitch la série, je vais te niquer une surprise, et je veux pas faire ça. Ce que je peux te dire, c'est que c'est une série pour toi, parce qu'elle est faite pour les gens qui connaissent Gundam, qui ont vu au moins les premiers films, ou qui connaissent au moins la fonctionnalité du monde de Gundam, c'est-à-dire un mec avec un masque, un héros, un robot seul contre tous, mais qui va changer la tendance de la guerre, mais en fait c'est une mécanique, la base de Gundam. Tu peux la regarder sans connaître Gundam, mais tu perds quand même un truc, parce que c'est comme regarder les films d'Evangelion sans connaître Evangelion.
Oui, je sais.
C'est-à-dire, ok, tu vas voir des films incroyables, mais tu vas manquer un truc. Tu vas manquer un truc qui travaille en toi depuis 20 ans.
Oui, c'est ça.
Et là, ils ont un
degré de lecture, quoi.
Ouais. Et là, ils prennent quand même un truc qui existait dans les années 70 et le twist d'une manière à ce que ça soit complètement nouveau. Et alors, ça va à toute berzingue. Il y a que 12 épisodes. Tu sens que ça se termine après. C'est que 12 épisodes, et je pense que ça révolutionne complètement ce que c'est qu'être Gundam, en fait. Mm-hmm. Genre, après ce qu'ils ont fait, bien sûr, il y aura d'autres séries plus classiques avec des beaux gosses dans l'espace qui seront là, taciturnes, et qui disent on va tuer le méchant, enfin, des trucs. Il y en aura encore, hein, des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment un truc qui va dans une direction complètement différente que tu ne peux pas t'imaginer. En fait, moi, j'ai eu en choc parce que j'ai vu la diffusion en salle de Gundam J-Quack, ça s'écrit G, Q, U, 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 il y a 6 U et un X, ça se dit J-Quack. Je l'ai vu en salle où ils montraient en fait juste les épisodes mis bout à bout en fait.
D'accord.
Et moi j'étais assis à côté de Fabien qui savait à peu près ce qui allait se passer, et là j'ai fait oh putain, et là je viens de voir le 11e épisode et j'ai fait ouais, putain, c'est genre, j'en tremble encore, quoi. C'est vraiment super. Il y a énormément, pour toi en tout cas, pour toi que je connais qui a vu la série originale, au moins la version des films, c'est plein de satisfaction. On a de la chance, c'est diffusé à 18h le mardi, genre juste après le Japon. C'est en sous-titré et super, et vraiment de super qualité et tout. C'est vraiment un truc à vivre, et c'est un genre de moment où je me dis ah putain, on vit quand même une sacrée période pour avoir de si bonnes séries que tu peux suivre en même temps que le Japon.
Oui, c'était impensable il y a encore 10 ans en fait, de pouvoir avoir cette opportunité d'avoir des trucs, ou comme quand Kamen Rider Black Sun était sorti, pareil chez nous, voilà, c'était inimaginable il y a encore 10 ans, quoi, donc profitons-en.
Et honnêtement, la série est dingo. La série est dingo, vraiment.
J'ai
pas de temps. Vas-y, commence.
J'ai dans le collimateur, mais en fait, c'est juste que du coup, en ce moment, je suis en plein replongé dans Gundam. Et du coup, j'attends d'arriver au bout de là où j'en suis. Donc là, je suis en train de me faire les...
T'en es où ?
Je suis en train de me refaire les Origins, en fait. Donc la mini-série de six films que j'avais...
D'accord.
que j'avais vu mais que j'avais arrêté parce qu'en fait quand j'avais arrêté je me disais mais en fait je me souviens plus assez de Gundam machin, donc j'ai arrêté pour reprendre Gundam depuis les années 70 et une fois que j'avais bien Gundam en tête et que j'avais entamé Zeta et compagnie, là je me suis mis à Origin pour voilà, parce que pour reprendre un peu le truc quoi.
T'as regardé Zeta en cinéma ou version
non,
série?
J'ai commencé la version série parce que a priori.
Oh, putain, bon choix.
Ouais, parce qu'a priori, justement, c'est ce que j'avais lu, c'est que les versions films, enfin autant les films de la série originale, ça fonctionne à peu près, mais autant a priori le Zeta en film, ça vaut pas le coup, donc j'ai pris directement la série quoi.
Et t'en es où dans la série pour que je, juste pour moi?
J'en suis vraiment, je suis dans le tout premier tiers en fait. Donc je suis vraiment au moment où
le Gundam Mark II.
Voilà, c'est ça exactement. Donc ça vient à peine de décoller, on va dire. Mais
si t'en es le premier tiers, il retourne sur Terre.
Ouais, c'est ça.
Et je t'envie parce que je l'ai revu, Zeta Gundam. Je sais pas si c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant. Et c'est une série extraordinaire, hein, franchement. Mais par contre, faut avoir le cœur un petit peu accroché.
Ah oui, bah ça.
Je dis rien, je dirais, et surtout Google pas les persos.
Ah bah non,
Google
non,
pas, mais, Google rien sur la série.
Jamais de la vie, jamais de la vie.
Et tu sais quoi, le fait que tu t'es vu, que tu regardes Zeta, bah, tu vas capter quelques trucs rigolos dans G-Quax aussi.
Ouais, mais c'est pour ça, en fait, voilà, je me suis dit, je vais attendre mon cycle avec Origins et Zeta, et puis après, je vais mettre un G-Quax parce que, ne serait-ce que pour encourager, faire quelques vues en plus sur Amazon et encourager les sorties quasi simultanées de ce genre-là, quoi.
Ah, c'est vraiment chouette. Bon, bah voilà, bah, c'était tout pour cet épisode de Super Ciné Battle, rempli de bons films, n'est-ce pas, Stéphane?
Oui, oui, du grand, du vrai cinéma. Mais Super Ciné Battle, c'est aussi ça, contrairement à d'autres podcasts et d'autres émissions consacrées au cinéma. Nous sommes l'émission populaire consacrée à tous les cinémas, voilà, y compris celui d'Ophélie Winter, rappelez-vous.
Ah oui, c'est vrai, l'épisode maudit. Enfin, moi, je trouve que c'est le bon épisode, mais tu sais qu'il y a les gens, ils m'en parlent encore, ils font « Putain, vous avez fait 30 minutes sur Ophélie Winter. » J'ai dit « Mais il faut la recontextualiser. » En plus, c'était avant qu'on revienne la voir, tu sais, parce qu'il y a des trucs nostalgiques qui réutilisaient Ophélie Winter.
Oui.
En disant genre « Qu'est-ce que vous êtes devenu ?» et tout ça. C'était avant. On a précédé tout ça.
Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a des gens qui te parlent. Ah, tu sais, moi, quand j'ai débarqué en Normandie, eh ben, leur Normandie, leur Vietnam à eux, c'est notre épisode de Ophélie Winter, quoi.
C'est clair. Bon, bah écoute, Stéphane, on est bon pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/RPU. Puis, bah, merci à toi, Stéphane, c'était rigolo.
Mais merci, Daniel, mais oui, avec plaisir.
Et puis, on se dit à très 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 bientôt, peut-être de visu, hein, puisque les vacances approchent.
Et oui, puisque les vacances approchent, il n'est pas exclu qu'effectivement on puisse se regarder un Transformers. Tu sais qu'il y a un Indiana Jones-like réalisé par Guy Ritchie qui est sorti sur Amazon Prime et que tout le monde s'en bat les couilles. Et je pense que...
Non, comment ça s'appelle ?
La Fontaine de Jouvence, et c'est avec John Krasinski.
Ah, c'est Krasinski,
oui,
d'accord.
Voilà. Et,
tu recommandes ou pas? Tu l'as vu?
Je l'ai pas vu. Je me suis dit, il faudrait une occasion, un partenaire particulier pour regarder ce genre de film, tu vois. Après avoir vu
avec Nathalie Portman.
Oui. Est-ce que ça donne pas envie un film de Guy Ritchie sur Amazon Prime avec John Krasinski en faux Indiana Jones / Benjamin Button, pas Benjamin Button, Benjamin Gates, voilà, est-ce que ça te donne pas envie?
Ça me donne envie, mais je t'arrête tout de suite, c'est pas Amazon, c'est Apple Plus.
Oh, c'est Apple
comme
Plus,
quoi,
peut-être. Ouais.
Comme quoi ils se sont dit, on va récupérer un Guy Ritchie pour baisser notre moyenne, elle était trop haute.
C'est ça.
Parce que globalement, tu sais quoi, puisqu'on parle un jour, tu sais quoi, pour la fin d'année, on devrait faire ça, super plateforme de plateforme ciné-pop. Ouais, on devrait les classer. Et tu sais quoi, je trouve que Apple Plus, ils ont beaucoup moins de matos évidemment, mais je trouve que la moyenne est beaucoup plus haute.
Bah, sur les séries, quoique les films originaux, ils avaient quand même le.
Ils ont eu Roma.
Non, Roma c'était Netflix.
Ah oui, c'est vrai que c'était Netflix.
Roma, c'était Netflix. Non, ils ont eu, comment ça s'appelle, le Hamlet avec du frère Cohen.
Du frère Cohen solo.
Oh, du frère Cohen solo qui était quand même vraiment bien. Mmh. Mais ils ont assez peu de films. Mais voilà. Mais du coup, ce qui est inquiétant, c'est que s'ils commencent à faire que justement comme Amazon Prime, à avoir vraiment les fonds de catalogue que personne ne veut, genre les Bloodshot et les trucs comme ça, je suis pas sûr que la stratégie soit payante quoi.
Bah, ils en ont beaucoup moins, mais surtout, il y avait, tu te souviens, il y avait le truc...
Macbeth, c'était pas Hamlet, avait... Macbeth, voilà, le Macbeth avec...
Est-ce que t'as vu Ghosted avec...
bien sûr que j'ai vu. Je l'ai vu à cause de Quix, d'ailleurs.
Il y avait lui... Tetris...
C'est lui qui l'avait rajouté à un moment donné et qui a dit, ça, faut absolument que vous voyez, ça va vous faire du mal. Et j'ai eu mal.
Ouais, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Le gros succès, je crois qu'ils ont eu Coda, qui avait bien marché aux États-Unis. Coda, c'est le remake de La Famille Bélier.
Ah mais c'était Apple. Mais tu me diras, Killer of the Flower Moon, c'était aussi une production, coproduction Apple Plus, non ? Y a pas une histoire comme ça ?
Exactement. Ouais, non, c'était une production Apple
et,
Plus.
Et le Napoléon. Et le Napoléon aussi, ils avaient pas l'exclusivité sur la version longue et tout le monde s'en bat les couilles de Napoléon de Ridley Scott. Je crois que c'est ça aussi l'astuce.
Gotch. On n'est pas le premier podcast sur Napoléon. Je suis désolé. On laisse ça à Louis Sarkozy.
C'est
monsieur.
Ce que je veux dire. Le podcast avec Louis Sarkozy. Tout à fait.
Bon bah écoute, c'est bon pour nous, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Ciao à tous.
On a vraiment fait on a prolongé la joie, on a fait un peu plus, voilà.
C'est ça.
Je suis en train de regarder la liste un peu plus. Ils ont vraiment pas des trucs fifous, hein. Palmer, c'est quoi, hein?
Palmer, de quoi tu me parles?
Avec Justin Timberlake, tu vois.
De quoi c'est sur. Tu parles de. Sur Apple Plus?
Sur Apple Plus, je regarde les inédits d'Apple Plus et ça tient, hein, il y en a 40, 30, hein, tu vois, tout cassé.
Bon,
ah, il y avait le. Il n'y avait pas le film avec Brad Pitt là où c'était Netflix?
Le truc.
Ah, il y avait The Gorge cette année qui était pas mal, un peu plus.
Ah oui, qui était pas très bien, mais qui était. Enfin, qui était peut-être la meilleure adaptation de Resident Evil, oui, tout à fait, c'était Apple Plus, The Gorge, ouais.
Je regarde. Florence. Ça a pas l'air. Putain, Ghosted, c'est vraiment le pire que j'ai vu.
Oh, Ghosted, c'est. Oh la vache.
Ghosted, genre, mais. Horrible. Luck. Ah, tu te souviens de Émancipation ?
Pas du tout.
C'est quoi ? Avec Will Smith, produit par Will Smith. C'est Antoine Fuqua.
Oh là, alors non.
C'est Antoine Fuqua et c'est Will Smith qui est esclave et qui s'émancipe.
Et, exact. Ouais. Exact. Oui, filmé, pas en sépia, mais effectivement avec un filtre un peu comme ça. Oui. Mm. Je me rappelais plus le titre, mais oui, je l'ai vu.
Je sais pas jusqu'où ça va, je pense que c'est pendant la guerre des... ou proche guerre sécession. Antoine Fuqua, toujours là, ouais. Toujours présent.
Oui,
tu
oui,
sais qu'en parlant de... Ouais.
Oui.
Ouais, je comprends pas, moi, Antoine Fuqua. Mais en même temps, il a fait le meilleur film de la décennie, hein. Equalizer 3.
Exactement.
C'est vrai. Tu sais que parfois, Equalizer 3 est encore très souvent dans les avions. Et donc, du coup, je me mets toujours un bout d'Equalizer. Je me mets le moment où il tue le mec en le regardant dans les yeux, mais comme un maniaque. Tu te souviens ?
Oui, je me souviens.
Tu sais, il le regarde, mais genre, il le regarde, mais comme si, genre, je vais capter ton dernier râle. Oh là là, mais c'est incroyable. Incroyable, Equalizer. Mais tu sais qu'il parle de faire Equalizer 4, ça y est. Hein.
Ah, bah oui, mais après, j'aimerais juste qu'ils continuent à emprunter ce qu'ils aient fait sur le 3. En transformant en fait le personnage de Denzel, donc Robert McCall, en cousin de Mike Myers en fait quoi. C'est vraiment, il y avait des le mec en fait c'était un psychopathe quoi. C'était assez fou quoi.
J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Dis-moi.
Parce que il pensait prendre John David Washington ou Michael B. Jordan pour genre leur rajeunir et tout ça.
Ah oui, ouais. Mais non.
Mais Denzel a dit que il avait un annoncé qui faisait Equalizer 4 et Equalizer 5.
Mais bien sûr. Non mais
peut-être qu'ils font une double feature.
sans Denzel, ça n'a aucun intérêt. Enfin, même si j'adore Michael B. Jordan et tout, c'est juste à un moment donné, tu regardes Equalizer parce que c'est Denzel. Enfin, c'est évident, tu peux pas.
From agrafeuse to Hollywood, quoi.
C'est ça, exactement.
Une production, Air Paris.